Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Un Grand Prix explosif, un Grand Prix agité. Et pour ce Grand Prix un peu particulier, eh bien nous sommes 4, 4 comme 4 pneus Pirelli. J'espère que personne ne sera le pneu arrière gauche. Bonsoir Ben.
Rebonsoir Shinji.
Rebonsoir Fab.
Bonsoir.
Et en quatrième, nous avons cette semaine un invité exceptionnel. Un spécialiste, peut le dire, il mérite le nom. Il travaille aussi pour Sport Auto, il s'occupe de la partie sport et ça tombe bien, c'est quand même la moitié du titre. Bonsoir Thibault Larue.
Bonsoir le SAV de la Formule 1.
Et parce qu'on vous dit tout, il faut le dire, c'est la deuxième prise qu'on fait. Oui, on dit tout.
mais t'as été meilleur, je te le dis, très franchement.
Et donc, comme c'est la deuxième prise, je vous repose la question, la même que je vous ai posée il y a 30 secondes. Qu'avez-vous pensé de ces courses? Parce qu'il y a eu une course.
Donc, je disais... lors de la première prise. Je disais que effectivement, si les choses nous tenaient pas à cœur, on aurait pu parler d'une course spectaculaire, mais c'était quand même une course très très déroutante et à un moment même assez assez émotionnellement difficile quand on voyait tous ces pneus exploser et qu'on relâchait tout le monde sur la piste.
Vraiment, je dirais complexe pour résumer la course. Je l'ai revu cet après-midi pour faire mon top 10 et c'est pas évident de faire un classement de qui a vraiment fait une belle performance, qui a profité un peu plus de la situation. Et c'est vrai qu'on a eu un peu tout comme sentiment pendant la course, parce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que la course va aller jusqu'au bout quand tu vois 4 pneus qui explosent, non seulement pour le pilote qui est dans la voiture dont le pneu explose, mais aussi on a vu Alonso et Raikkonen qui étaient chaque fois juste derrière et qui auraient pu aussi recevoir des débris, qui auraient pu aussi être dangereux pour eux. Donc, sentiment partagé, et course pour la résumer dans l'ensemble, ce serait complexe, moi.
Thibaut, comment tu l'as ressenti, toi, ton œil énervé, paniqué, comment tu l'as ressenti, cette course?
Comme souvent en Formule 1, il y avait plusieurs éléments dans une course. Il y avait de quoi détester la Formule 1 et de quoi la vénérer. J'ai remarqué très souvent ça, parce qu'en plein milieu d'un Grand Prix, il y a plein de choses qui se mélangent, les communications radio, un petit peu de politique, un petit peu tout. Donc au moment où les pneus explosent, on entend les ingénieurs prévenir les pilotes, faut pas attaquer. On se dit, c'est n'importe quoi, je regarderai plus jamais. Et une fois que le drapeau vert est relancé, les pilotes attaquent comme si de rien n'était et on adore à nouveau la Formule 1, parce que les 20 derniers tours, c'est un Grand Prix extraordinaire.
Ah oui, superbe. Mmh.
Et je crois que c'est Alonso à qui on dit de faire attention au niveau des vibreurs, etc., et qui dit qu'il en a rien à serrer, en gros, et que lui va continuer à attaquer parce qu'il veut remonter, quoi.
Oui, de toute façon, c'est impossible de demander à un pilote de pas attaquer. C'est pareil quand on nous explique en début d'année que c'est plus des Grands Prix, que les pilotes ont le coude à la portière. C'est ce qui est quand même une connerie monumentale. Pour connaître les pilotes dans la vie de tous les jours, je peux vous dire que dans tous les domaines de la vie de tous les jours, ils attaquent. Ils font pas la queue à l'aéroport, ils font pas la queue à la voiture de Locke, ils font pas la queue au supermarché. S'ils peuvent vous faire l'intérieur avec le chariot, ils le feront. Et c'est ce que j'ai mis dans l'imag F1 de Sport Auto le dimanche soir. Voilà. Moi, ce que j'aime en Formule 1, c'est les pilotes. Tout le reste, parfois, ça me gonfle assez phénoménalement. Heureusement qu'on a des pilotes qui restent des pilotes. Ce serait un pilote des années 50, il ferait pareil. Des années 60, des années 70, rien ne change. Les pilotes sont les stars du système.
Ah ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est très... s'il y a bien quelque chose qui surnageait dans le chaos au moment où il y a eu toutes ces crevaisons, où le safety car est sorti et que finalement la course a été relancée dans l'incertitude la plus totale, c'est quand même les pilotes qui continuaient à attaquer et qu'on leur disait n'allez pas sur les vibreurs dans certains virages. On les voyait très bien aller sur ces vibreurs. Et c'est vrai que moi, j'ai tweeté un truc pendant la course, j'ai dit ça serait moi, ça ferait un moment que je serais allé demander les horaires d'un cours de bracelet brésilien, quoi, parce que t'as un moment, c'est-à-dire, c'est quand même des gens qu'on ont, quoi, ils sont couillus, quoi, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, je sais pas, moi, devant ma télé, c'était vraiment la première fois depuis que je suis assidûment à la Formule 1 que j'avais une peur, mais vraiment quelque chose de viscéral, quoi, j'avais peur que ça se termine très mal pour l'un d'eux, quoi, parce que c'était quand même assez imprévisible ce qui était en train de se passer, quoi. Et eux, non, ils continuaient à attaquer, incroyable, quoi.
Chose assez incroyable, et on n'a pas entendu un seul pilote à la radio demander s'il fallait pas arrêter le Grand Prix, parce qu'un des derniers exemples de Grand Prix un petit peu fou comme ça, c'était Adelaide 86, si on se souvient, avec pas mal d'explosions,
oui,
de pneus.
Tout à fait,
pour
oui,
Mansell. Faut pas oublier qu'à l'époque, Goodyear avait demandé à certaines écuries de retirer leurs pilotes. Là, pour le coup, tout le monde a un peu continué, donc comme quoi des fois on est un peu nostalgique en disant c'était mieux avant. Écoutez, j'ai pas entendu un seul Grand Prix pour dire moi j'arrête cette farce, ils ont tous attaqué.
Alors ce dimanche, nous étions le 30 juin, et oui, comme après chaque Grand Prix, nous aurons un éphémérite, on va revenir sur un événement qui a eu lieu le 30 juin.
Enfin, ça faisait longtemps.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et cette semaine, c'est 22.
Donc on va commencer, on va élaguer tout de suite. Ça a un rapport avec la Formule 1?
Bah non, l'éphéméride n'a jamais de rapport avec la Formule 1.
Oui, bon, on sait jamais, mon petit père.
22, c'était le numéro de la cellule de Bernard Tapie en garde à vue?
Peut-être, mais ce n'est pas ce qui nous concerne.
C'est du sport.
C'est du sport.
C'est un événement mondial?
Ça concerne un événement mondial.
Parce que c'est le Tour de France.
Ce n'est pas le Tour de France. Mais c'est un événement qui a lieu, en effet, parfois, dans cette période de l'année.
La Coupe des Confédérations.
Non.
Wimbledon.
Non. Faut taper plus haut.
Plus haut.
Jeux Olympiques.
Jeux Olympiques. Ah, ça peut être très rapide.
J'avais parlé de Paris Fix, mais...
22.
Oui. En fait, c'est un anniversaire, on cherche. Quelqu'un qui est né le 30 juin. Et...
Est-ce que c'est un rapport avec Mimoun?
Non.
C'est un rapport avec un nageur.
Oui. Proche.
Michael Phelps.
C'est Michael Phelps.
Ah, oh, merde.
C'était pas l'un, c'était l'autre.
Eh oui.
Eh oui. Parce que 22, en effet, c'est le nombre de médailles olympiques qu'a eu Mark Phelps, qui a fêté ses 28 ans. Ce jeune retraité, qu'il est
alors
retraité.
Mark Phelps, je sais pas, mais Michael.
Oui, Michael, oui, tu as raison. Je suis en train de faire un mélange entre Mark Smith et Michael Phelps. Michael Phelps, le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. 18 titres, hein, donc 22 médailles en tout, c'est aussi un record. Il est bien sûr le recordman du nombre de titres olympiques en une Olympiade, hein, à Pékin, 8 titres. Et d'ailleurs, justement, il avait refait la fameuse photo de Mark Smith, mais avec ses 8 médailles. Accessoirement, il a aussi remporté 26 titres de champion du monde. Ça va ?
En étagère.
Oui. Il a, au cours de sa carrière, battu 36 records du monde, dont 3 sont encore en vigueur. Alors, pour info, il a commencé la natation à 7 ans. Hein, à l'époque, c'était pour canaliser son excès d'énergie parce que il avait été traité pour hyperactivité. Ça l'a bien aidé. Accessoirement, au niveau des Jeux Olympiques, ses premiers Jeux, ça n'a pas été en 2004, mais en 2000, à Sydney, il n'avait que 15 ans. Ce qui fait de lui un des plus jeunes athlètes américains à avoir participé aux Jeux. Alors, au niveau de la taille, hein, il fait quand même 1m93. Il pointe en 47, ce qui est pas super grand, je trouve, par rapport à d'autres. Je crois que Thorpe, c'est du 52.
Oui.
Voilà. Et par contre, il a la même envergure qu'un Ned Le Royal, puisque il a une envergure de 2 mètres. C'est pas étonnant qu'il soit très bon au papillon, finalement. Ah, mais c'est vrai.
Oui.
Donc voilà, c'est joyeux anniversaire Mark Phelps, on peut le dire, qu'on sait que les Américains nous écoutent. Ouais. Alors, il est à l'arrêt, il a été interviewé au début du mois de juin, parce que forcément, on lui demande, oui, est-ce que vous aimeriez pas revenir? Non, apparemment, il est très bien à l'arrêt. Apparemment, son grand truc, c'est le golf, et avec la taille de ses bras, je sais, ses swings doivent être monstrueux quand même.
Et vous savez s'il est aimé en natation ou pas? Parce que vu que Vettel, après 3 titres, il est déjà détesté. Je voulais savoir si lui, après 22 titres, on a essayé de lui tirer dessus dans une piscine ou pas, non?
Pour l'instant, non. Puis bon, je crois que maintenant qu'il est à la retraite, c'est bon. Les autres se disent, c'est bon, il est plus là. C'est notre tour.
Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a qu'en Formule 1 qu'on déteste les gens qui...
C'est vrai. Alors, c'est dingue. On l'avait vu au Canada, mais alors là, en Angleterre...
Bah, je peux vous dire que la salle de presse a applaudi l'abandon de Vettel, ce qui prouve le niveau général.
Oh, c'est dingue quand même.
Bah oui, c'était... Oui. On y reviendra.
Alors, en F1, ce 30 juin, on peut remonter au Grand Prix de France 1996. Bon, victoire de Démonier.
Quoi, il y a eu des Grands Prix de France?
Oui, ça a existé. Hein. C'est là que t'es content d'être belge, hein. Dis-le, t'es content d'être belge à ce moment-là.
Je me suis fait vanner avant l'émission, je me venge. Hein.
Écoute, attends, la Belgique est peut-être pas très longtemps indépendante, mon petit gars.
On vote l'an prochain.
C'est vrai?
Ouais.
Oh.
Donc victoire de Démonil, mais surtout, pour la seule fois de sa carrière, eh bien, Michael Schumacher a été non partant d'une course, parce qu'au tour de formation, son moteur a explosé. Sur ses 308 participations, il en a fait 307. La seule qui lui a manqué, c'est celle-là. Sinon, deux tristes jours pour la F1. Ah bon, certains diront qu'il n'y en a qu'un, deux diront que c'est deux tristes jours. En 1966, le 30 juin, Giuseppe Farina nous quittait sur les routes françaises. Il se rendait juste là aussi sur le Grand Prix de France. Donc Giuseppe Farina, il faut le rappeler quand même, parce qu'on a des petits jeunes qui nous écoutent, mais c'est loyal.
Le premier champion,
le premier vainqueur. Et puis, ça, c'est presque la fin de sa carrière, parce qu'il a des victoires en F1 avant le championnat du monde, et il a commencé sa carrière dans les années 30. Déjà chez Ferrari, avec Nuvolari. C'est dommage, il allait exploser au début des années 40. Je crois qu'il avait gagné le Grand Prix de Tripoli en 1940, et pas de chance, c'était la dernière course avant les hostilités, ce qui fait qu'il n'y a plus de course, ce qui fait que peut-être une carrière encore plus longue, qui a été coupée, hein, il n'a pas été le seul. Et une autre, oui, une, c'est vous qui jugerez, puisque c'est la naissance de l'autre Schumacher, de Ralf Schumacher. 6 victoires. Comme quoi, hein, Farina, il a 5 victoires. Schumacher, il a 6 victoires. Comme quoi, les chiffres, parfois, c'est de la merde.
Oui, là, tu fais référence à quelque chose de particulier. Non?
Je laisse les gens seuls juges sur Ralf Schumacher.
Ralf. Il nous manque un peu.
Il était en DTM l'an dernier, mais je crois que cette année, il n'y est plus.
Non, il n'y est plus, non.
Et il fait quoi, donc?
Rien.
Des bracelets brésiliens, justement.
Alors, vous savez que Ralf Schumacher, c'est le premier pilote à qui j'ai parlé en Formule 1 le premier pilote qui m'a envoyé chier.
Ah!
Ouais, mais tu le méritais, il me semble, me souvenir.
Bah oui, parce que j'arrive dans un paddock et je commets la terrible erreur professionnelle de vouloir aller lui poser directement sans passer par son attaché de presse.
Ouh là là.
Et autant vous dire qu'il n'a pas apprécié du tout. Bon, c'est dommage parce que j'étais un grand fan de Ralf avant d'arriver en F1. Je sais pas pourquoi, mais je suivais absolument toute sa carrière. Et j'ai déchanté assez rapidement, mais très bon pilote quand même.
Oui, non, mais c'est vrai quoi. C'est surtout sa fin de carrière quoi, un peu. Ça a un peu traîné en longueur, mais sinon après il avait sans doute les capacités pour être un peu mieux considéré.
Ah, c'est dur aussi. Hein. On se moque souvent de lui, mais voilà, quand on a le frère qu'il a, c'est pas évident forcément.
Surtout avec la presse, c'était son gros problème. C'était ses relations avec une presse qui sur les Grands Prix est à 90% insupportable. Tabloïd anglais, tabloïd allemand. Les Français, nous, on est l'abbé Pierre à côté. C'est vrai que le côté médiatique a tué la carrière de pas mal de pilotes. Il faut être un bon pilote pour être en Formule 1. Il faut avoir une énorme patience avec les médias. Il faut pas seulement savoir tourner un volant. Il savait tourner un volant, mais il ne savait absolument pas gérer son image et ses relations avec les autres.
Donc voilà, c'était tout pour l'éphémérine. Vous avez été très très bon. Je vous veux plus souvent à la place de Dino. Dino, il met beaucoup plus de temps à trouver des trucs, même quand c'est des histoires de petits chiens. Et donc, on va passer à l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Enfin, l'heure de l'invité, parce que la gloire... la gloire, il en a plein. Il nous disait qu'il était en train de manger du caviar, là, en plus. Hein.
Surtout que si c'est un quiz et que je le loupe, ça va être l'heure d'humiliation. Surtout.
Ah, si tu loupes ce quiz-là, c'est quand même vraiment que t'es mauvais. Ah, parce que là, franchement...
On veut pas te mettre la pression, hein. Loin de nous, cette idée. Mais là, quand même. Hein.
Donc, Ben, à toi l'honneur, avec une série de questions...
Alors, pour commencer donc cette petite heure de gloire de l'invité, un petit quiz façon SAV, donc complètement décalé, avec différentes questions. La première étant, un savant fou décide de nucléariser, oui, l'intégralité des circuits de la planète, mais tu es un héros, tu peux en sauver un. Lequel choisirais-tu ?
Je sauverais, c'est difficile parce que il y a des questions d'ambiance, il y a des questions de circuit pur, allez, Suzuka.
Tu remportes le jackpot de l'Euromillion. Et après avoir évidemment gâté tes proches, assuré le reste de ta vie par des placements, il te reste encore 50 millions d'euros à investir en Formule 1. Comment utiliserais-tu cet argent en sachant que Bernie en prend la moitié?
J'aiderais quelques pilotes français qui le méritent et qui n'ont jamais eu leur chance.
Lesquels, par exemple?
Je mettrais Loïc Duval en Formule 1. Je mettrais Alexandre Prémat en Formule 1.
Ah ouais, grand espoir, ça, oui.
Je mettrais Bianchi chez Ferrari.
On veut bien participer.
J'essaierai de recréer une petite filière française.
Et justement, si tu devais avoir maintenant, tu devais être dans une Formule 1 biplace, qui aimerais-tu au volant?
Jean Alési.
T'as peur d'une petite sortie de piste?
Non, parce que je suis monté trois fois à côté de lui dans les voitures. Et à chaque fois, c'est un régal absolu parce que j'ai la chance de bien m'entendre avec lui. Et au lieu d'attaquer à 100%, il attaque à 117%.
C'est oui.
Et sinon, aujourd'hui, je pense qu'un petit Vettel doit être assez drôle, je pense.
Et allez-y, t'as essayé la DTM?
Allez-y, je t'ai monté dans une DTM deux fois, dans une Lotus Evora GT, dans une biplace Lotus, je ne sais plus laquelle. Et à chaque fois, j'ai des anecdotes incroyables avec lui, parce que Jean Alési, c'est un peu le Audiard du sport automobile. En plus d'être un excellent pilote, il a une répartie et un sens de la formule absolument extraordinaire. Et il a de l'humour, ce qui pour un pilote est assez rare.
Mais ils sont drôles, les pilotes. Lewis Hamilton est très drôle. Il s'est communiqué.
Vous n'avez pas commencé à attaquer Lewis en ma présence? un peu de décence, s'il vous plaît.
Non, mais je le trouve beaucoup moins bavard dans les communiqués maintenant qu'il est chez Mercedes. Hein.
Il était redevenu sympa 2 ou 3 Grands Prix. Et depuis la Malaisie, il fait la tronche à nouveau.
Ah bah, il va être bougon, apparemment. Il est plus avec Nicole maintenant. Donc,
cela en Allemagne, il va regarde la tronche.
Alors, question suivante. Tu te réveilles dans la peau d'un Charlie Whiting, ou de son remplaçant, qui aurait les pleins pouvoirs sur le règlement technique, sans les écuries sur le dos. Quelle serait ta première mesure ?
Moi, je remettrais les pneus de qualif. Parce que même si aujourd'hui on a un format qui est plutôt acceptable par rapport au désastre qu'on a eu dans les années 2000, je me qualifie une fois, on inverse l'ordre de départ, j'ai qu'un tour, c'était totalement scandaleux. Là, on arrive à un système qui est plutôt intéressant, mais il me manque la qualif absolue avec le pneu absolu qu'on a pu avoir à une certaine époque.
Et pour rester sur les pneus, on parle souvent, certains disent c'était mieux quand il y avait plusieurs manufacturiers. Toi, t'es pour un manufacturier unique ou pour plusieurs manufacturiers de pneus?
J'ai connu 2 périodes compliquées en F1. Celle d'aujourd'hui avec Pirelli qui est tout seul. Et le sommet de la lutte, Bridgestone, Michelin, où franchement, les Grands Prix étaient assez insupportables à suivre parce que c'était tellement devenu sensible que tout d'un coup, un nuage passait sur un virage. C'est les Bridgestone qui étaient les meilleurs. Tout d'un coup, il refaisait chaud, c'était les Michelin. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, un seul manufacturier... Je préfère une lutte entre manufacturiers. Malheureusement, avec les moyens aujourd'hui, ça devient n'importe quoi en termes de dépenses. Donc, je crois que c'était une situation du passé. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'un seul manufacturier, ça reste quand même une solution assez acceptable.
Quel morceau de musique mettrais-tu en générique de la Formule 1?
Bonne question. Je mettrais les Stones, Satisfaction.
Regarder les Grands Prix, c'est gentil, mais on veut connaître la vérité. Quitte à aller un jour sur une course, c'est dans quel pays qu'on mange le mieux?
Si vous voulez bien manger, il faut aller à Monza. Vous allez à l'hôtel, le nom m'échappe, au Fossati. Vous commandez un risotto funghi et vous décédez.
Un nouveau pays décide d'organiser un Grand Prix et de confier le dessin du circuit à un pilote. À quel pilote est-ce que tu demanderais de dessiner ce tracé?
Jean-Pierre Beltoise, qui était un pilote extraordinaire, un homme formidable, très sensé. Dans plusieurs dîners, on s'est amusé à ça, et lui, il verrait bien des bankings, des trucs un petit peu foufou. Donc, je verrais bien Jean-Pierre Beltoise. Ou Jacques Lafitte. Je pense qu'on peut s'amuser. Le problème, c'est qu'il oublierait de revenir sur lui-même, je pense. Donc,
puisqu'on parle circuit, on va parler du plus beau circuit du calendrier, Abu Dhabi, qui décide d'ouvrir un musée consacré à la Formule 1, et il te propose d'en élaborer le catalogue. Quelles seraient les 5 pièces maîtresses de ce musée?
Je ferai une salle sur les casques. Parce que...
Avec les casques de qui en particulier?
Non, mais l'historique, moi j'ai toujours aimé le principe du casque. Je trouve que je préfère vous prévenir tout de suite, je suis un petit peu vieux con, moi, déjà à 34 ans.
T'aimes pas le style Vettel qui change les casques limite 3 fois par week-end?
Je déteste ça.
Merci.
je crois qu'on est d'accord.
Pour moi, le casque, ça prouve la personnalité du pilote, et on se rend un petit peu compte aujourd'hui qu'ils en ont moins qu'avant parce que leurs casques sont pas très drôles. Cela dit, ils ont absolument pas la main sur leur casque, donc je leur en veux pas. Je ferai une pièce sur la presse avec des coupures d'articles, ça pourrait être assez drôle. Je ferai une pièce pour la F1 française, Trintignant, Beltoise, Sauvert, etc., Prost, Depailler, Lafitte et compagnie, allez-y. Je ferai une pièce Bernier-Ecclestone.
Ah oui, ça c'est
qui essentiel. Représente très bien son sport, c'est-à-dire qu'on a toutes les raisons de le haïr et de l'adorer en même temps. En fait, la F1 ressemble à Bernie Ecclestone, il en a fait vraiment son enfant. Il est un homme qui a autant de qualités que de défauts, et je trouve que ça représente assez bien la F1. Et je ferai une dernière pièce avec un simulateur de toute la F1 de l'histoire. Là, qu'on se retrouve au volant d'une Mercedes W196, d'une Lancia D50, d'une F1 d'aujourd'hui, avec les vraies différences de comportement, et d'une de mes voitures préférées, l'Auto Union, parce que les années 30, je suis passionné par les années 30. Et j'avoue que j'aimerais bien essayer une Auto Union en simulateur.
Un beau programme,
oui.
Ça.
Ouais, par contre, il faut que tu gardes de l'argent de l'euro-million, là.
Ouais, mais à Abu Dhabi, je crois qu'il n'y a pas de problème de finance pour les projets.
C'est pas faux non plus.
Ah ouais, on n'a pas dit qu'il devait financer, hein. Il peut juste être consultant, hein, pour le...
Ah bon, donc on peut faire un Grand Prix de France si on ne sait pas qui finance, alors.
Oui.
Question suivante. Un producteur de cinéma te consulte pour réaliser un film sur la Formule 1. Quelle époque est-ce que tu lui suggérerais?
Je crois qu'on pourrait faire un film presque toutes les saisons. Hein. 2-3.
Même 2002?
Je dirais 2-3. Je reviens aux années 30. C'était quand même absolument extraordinaire. Mercedes contre Auto-Union. Années 50, la fin de Fangio quand même, 57, le Nürburgring, ça fait très très mal. Les années 70 quand même, hein, la F1 prend son envol et j'ai un petit fait pour les années 70. Prost Senna, c'est même pas un film qu'il faut, c'est 40 films. les années 2000, non mais je pense qu'on peut faire un film par saison, hein, globalement. Donc s'il fallait vraiment choisir, je trouve que Hunt, Loda quand même, c'est une belle période de la F1, mais pour moi c'est Prost Senna, mais un vrai film, pas comme le dernier où Prost passe pour un blaireau absolu et pour Senna pour un ange. Alain n'a ni été un blaireau et Ayrton ni un ange, donc un film un petit peu plus véridique, ce serait vraiment sympa.
Ouais,
un peu plus nuancé. Et sur Rush, puisqu'on l'a un peu évoqué avec Hunt, Loda, tu as vu les bandes annonces?
Oui, j'ai vu la bande annonce et ce week-end je discutais avec un ou deux journalistes qui ont pu le voir en avant-première. Et globalement, ils sont plutôt surpris et agréablement surpris. Ce n'est ni une bouse hollywoodienne, ni totalement ridicule. Les journalistes à qui je fais plutôt confiance, donc visiblement, c'est plutôt une bonne surprise.
Très bien, on prend note. On va voir ça sort le 20 septembre, je crois, dans ces eaux-là en tout cas. Quel sportif, en dehors des sports mécaniques, rêverait de voir dans une Formule 1 ?
Alors qui on pourrait mettre ? Un boxeur, ce serait compliqué.
Vincent Moscato aussi.
On l'a déjà suggéré pourtant,
Antoine Arlo.
Ah oui, ça ne m'étonne pas lui. Oh, c'est dur comme question ça.
Ah mais attends, c'est le SAV.
Non, un sportif. Bon, je mettrais bien un Hermann Mayer.
Ah ouais.
Le ski, j'avoue que j'ai eu pas mal de fascination pour les descendeurs aussi.
Oui, c'est la même
veine. Ah bah oui, il y a le côté casse-cou, trajectoire, vitesse. Ouais.
Ce serait assez rigolo de mettre Hermann Mayer dans une Formule 1.
Tu pars faire du camping. Oula. Et tu peux embarquer 4 personnalités, passées ou présentes de la Formule 1, évidemment, dans ton combi Volkswagen. Lesquelles est-ce que tu choisis d'emmener avec toi?
James Hunt.
Oui. Je le vois bien camper.
Jacques Lafitte. Jean Alési, et une quatrième, pas forcément parce que je suis sûr de m'amuser avec lui, mais Fangio, pour lui poser des questions sur sa carrière.
Et pour les autres, un petit justificatif?
Allez-y, parce que je crois que vous avez compris, mais j'adore cet homme.
Voilà.
Jacques Lafitte, qui est très très drôle. Donc autant dans un camping, je suis pas sûr que ce soit très drôle un camping, donc autant s'amuser. Et James Hunt, je pense qu'il fera un bon ramateur à fille.
Très bien, je pense que c'est un questionnaire réussi. Oui. Ou la main.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Vous êtes trop bon.
Il faut la confirmation. Là. Donc autre partie de l'heure de gloire, évidemment, c'est le pour pas pour. Hein, c'est l'institution du SAV. Donc le pour pas pour, hein, t'imagines bien. Je te pose 10 questions auxquelles tu dois répondre pour et
pas pour, je vais répondre.
Donc, Thibaut, tu es prêt?
Tout à fait.
Alors, première question. Pour, pas pour, la limitation de 4 écuries équipées par un motoriste?
Oui, pour. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, vu qu'il n'y a plus beaucoup d'écuries, qu'il n'y a pas beaucoup de motoristes présents, plutôt pour.
Alors, t'auras l'occasion, j'ai oublié de le préciser, ça c'est tout un métier, t'auras l'occasion de revenir sur 3 actualités de ton choix derrière. Donc, pour l'instant, contente-toi d'un pour, pas pour, et après, tu reviens sur ce que tu veux. Pour, pas pour, le retour de Schumacher entre 2010 et 2012.
Pour.
Pour, pas pour, la F1 sur des chaînes payantes.
Pour.
Pour, pas pour, Raikkonen chez Red Bull en 2014.
Pour.
Pour, pas pour, un film sur François Sever et Jackie Stewart.
Pour.
Pour, pas pour, un livre sur la vie de Roscoe.
Pas pour.
Ah bon? Pour, pas pour, Jean Todt.
ça dépend quand, mais pour.
Pour, pas pour, le tribunal international de la FIA.
Pour.
Pour, pas pour, là je crois connaître la réponse. Pour, pas pour, le permis à points pour les pilotes.
Contre.
Oh ben non, pas pour, toi tu prends des risques. Et enfin, la dernière, le juge de paix, c'est-à-dire que là c'est ça classe un homme. Pour, pas pour, le Hungaroring.
C'est marrant, parce qu'on en parlait hier avec un collègue... Pour.
Ah oh bah t'es quand même pour pas mal de choses finalement. Antoine Arlo redoutait qu'il soit pas pour grand chose, mais en fait c'est pas mal.
Non, par contre je suis pas pour Antoine Arlo. Humour, je précise, pour ceux qui auraient pas d'humour.
Tu as le droit de revenir sur 3 actualités de ton choix parmi les 10 auxquelles tu as eu à répondre. Tu veux un récapitulatif?
Non, ça devrait aller. Bon, Raikkonen Red Bull, évidemment, c'est le je pense, le souhait de tout le monde. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient contre. Alors maintenant, est-ce qu'il va y aller? J'en suis pas plus que vous, mais voilà, globalement, s'il y va pas, j'ai peur que Vettel domine la Formule 1 pour plusieurs années, vu le niveau actuel de Ferrari et de McLaren. Et je crois que tout le monde a y gagné. Et Raikkonen, parce qu'il aura une voiture pour gagner des courses. Et Vettel pour enfin prouver qui il est vraiment. Donc franchement, il y a quasiment aucun obstacle à ce qu'il y aille. Donc croisons les doigts.
Ensuite.
Bah si en fait j'ai besoin d'un récapitulatif, vous voyez ça.
Ah là. Alors Lung au ring, le permis à point pour les pilotes. Le...
Catastrophe. Non, ça fait des années que j'en veux un peu aux pilotes de Formule 1 de ne pas comprendre que ce sont les héros de ce sport, que la F1 ne tient debout qu'à partir du moment où le public les admire. Et je pense que ça fait vraiment mauvais effet que de donner pour signal aux fans d'admirer des gens qui ont un permis à points comme eux et qui vont le perdre. C'est vraiment une erreur monumentale que la Formule 1 est en train de commettre. C'est pas faute de leur expliquer. Qu'est-ce que vous voulez ? On vit dans un monde où il faut...
Mais tu penses pas moi j'ai pas vraiment d'avis en fait sur la question à première vue je trouve ça étonnant, mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi un moyen d'arriver à uniformiser une sorte de barème autour de la question des sanctions, qui reste quand même aussi une grosse problématique, parce que on a toujours l'impression que ça se fait à la tête du client, que ça se fait vraiment selon le contexte, la mise en place de sanctions. Là, au moins, moi, à mon avis, l'avantage, ce serait un barème clair à ce niveau-là, quoi.
Oui, mais c'est pas parce qu'on dit qu'ils ont 12 points qu'on sait exactement quelle infraction va enlever combien de points. Moi, j'ai rien vu là-dessus. Ça va pas empêcher, peut-être, de taper sur Grosjean plus que sur les autres. Donc, je vois pas où est la transparence à dire que, maintenant, il y a un permis de 12 points. Si ça veut dire qu'après Sport, ils vont considérer qu'il faut enlever 10 points à Grosjean d'un coup, et qu'il y a un autre qui va faire quelque chose peut-être pas de semblable, parce que là c'était quand même un peu au-dessus du lot, mais ils vont en perdre que 3, donc je vois pas bien où est la transparence.
Donc ensuite, le tribunal international de la FIA, Jean Todd, un livre sur la vie de Roscoe, le film sur Sever, la F1 sur les chaînes payantes, le retour de Schumacher, ou la limitation de 4 équipes par motoriste.
Le retour de Schumacher, qui a fait couler beaucoup d'encre. J'avoue que vous m'auriez posé la question il y a encore 2 mois, j'aurais dit pas pour, parce que j'avais quand même plutôt mal vécu le fait que le plus grand champion de l'histoire revienne, dire, pour une période un petit peu moins glorieuse. Je trouvais que ça entachait un petit peu sa carrière. Et maintenant qu'on sait exactement ce que vaut Nico Rosberg, on va dire que je suis pour. Il a eu le courage de revenir. Il était loin d'être ridicule maintenant qu'on voit ce que fait Nico. Et moi, je suis vraiment pas loin de penser que sa poule à Monaco l'année dernière, honteusement retirée par la FIA, est certainement un des 3 exploits de toute sa carrière.
Un des grands regrets de son retour, c'est pour le manquer. Parce que quand on part devant Monaco, c'est ce qui arrive. Ouais, c'est vrai que Schumacher qui gagne à Monaco, ça aurait été...
Ouais, pour être tout à fait net, je suis pas sûr qu'il aurait gagné, parce qu'il faisait quand même beaucoup d'erreurs en course. Et notamment sur les grands prix les plus exigeants, Singapour. Donc il n'était pas exclu qu'il fasse une erreur non plus, ou que tape un rail. Ouais, on peut pas dire, parce que vous partez en pôle, vous allez gagner. Et franchement, je pense pas qu'il aurait gagné.
Non, mais l'Espagne, il y avait la possibilité quand même, éventuellement...
Non, mais en dehors de ce qu'il aurait pu faire en course, voilà, il avait 43 ans ou 42, je sais plus. Faire une pole à 42 ans face à des mecs qui en ont 22 sur le circuit le plus exigeant, franchement, c'est donc après, indépendamment de ce qu'il aurait réussi en course, c'est vraiment une pole position extraordinaire.
Très bien, mais tu t'en es pas mal sorti. On va maintenant te demander, alors c'est très difficile, mais quelle actu dans les dernières semaines, de quelle actu tu n'as eu rien à faire dans les dernières semaines ?
En F1. C'est-à-dire, non, je m'en fous complètement, quoi.
Exactement, ouais, c'est...
C'est difficile de se foutre de ce qui se passe en F1, parce qu'il y a toujours des implications. J'aurais pu dire le rachat 35% de Lotus, mais bon, ce serait quand même pas totalement vrai, parce que ça influe un petit peu quand même. Que Bahreïn devienne le premier Grand Prix l'année prochaine, ça m'embête un peu quand même aussi. Non, enfin, franchement, j'ai un petit peu de mal à me foutre de ce qui se passe en Formule 1.
Oh bah, c'est déjà pas mal, t'en as cité 2. Ça fait 2 de plus qu'Antoine Arlault, je veux pas balancer, enfin.
Il y a toujours la coupe de cheveux de Raikkonen.
Ouais, mais ça en dit beaucoup sur lui aussi. Non, mais franchement, en F1, rien n'est gratuit et rien n'a aucun intérêt, parce que ça nous dit toujours un petit peu sur tout. Donc là, c'est vrai que franchement, non, chaque nouvelle a une influence sur quelque chose.
D'accord, maintenant on va faire un peu de prospective. Quelle est l'actualité que tu aimerais lire dans les prochaines semaines ? Alors, hors résultat de Grand Prix.
Alors, j'aimerais lire une cascade d'annonces de transferts. J'aimerais lire que Raikkonen signe chez Red Bull, que Jean-Éric Vergne rejoint Lotus et que Jules Bianchi rejoint Ferrari.
Ah oui.
Voilà, le tout dans la même journée, ça me paraît un petit peu compliqué, mais bon, écoutez, hein, puisque j'ai la main, sur la queue.
Tout à fait. Et ensuite, forcément, l'actu que tu n'aimerais pas lire, là encore hors Grand Prix.
C'est compliqué parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup que je préférerais pas lire. Je n'aimerais pas lire qu'une écurie disparaisse. Je ne suis pas sûr qu'on ne sera pas amené à le lire.
Les difficultés financières, oui, chez certaines, apparemment, ça a l'air très,
oui,
très important. Chez Sauber, notamment.
William, c'est très mal aussi. Avec ce nouveau moteur qui est quand même très très cher, des droits d'entrée FIA qui ont explosé, c'est 11 écuries, c'est un peu limite, 10, c'est très très limite, en dessous de 10, ce serait absolument n'importe quoi. Et du coup, ça me permet pas. Alors, une autre actu que j'aimerais bien lire, c'est qu'enfin la Formule 1 accepte que des écuries vendent des châssis complets à des écuries clients.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée, c'est sûr, surtout dans cette période où on cherche absolument la réduction des coûts.
Parce que quand on voit Force India mieux réussir que McLaren, ouais, franchement, je vois pas l'intérêt à ce qu'il y en ait une qui dépense 200 millions et l'autre 80, pour arriver à que celle qui vaut 80 soit celle qui soit 200 millions.
Ouais, surtout qu'il y a quand même déjà aussi pas mal de transferts. On voit si Toro Rosso passe chez motorisé par Renault l'an prochain, c'est pas non plus pour rien. Donc, qu'ils se font déjà, donc pourquoi pas pousser le vice, enfin le vice,
c'est
le principe un peu plus loin.
C'est l'histoire du sport automobile, mine de rien, parce que c'est pas parce que Ferrari va vendre une Ferrari au SAV de la Formule 1 que vous n'avez pas le droit de la développer de votre côté, que vous n'avez pas le droit de faire des setups différents. Plutôt que de dépenser chacun 100 millions à essayer de faire quelque chose qui au final se ressemble plus ou moins et va pas faire énormément de différence, je préférerais avoir 3-4 écuries plus plutôt que devoir acheter qui faisait absolument n'importe quoi. Avoir une Sauber, une McLaren ou une Williams. Pas une Williams d'ailleurs.
Non, cette année, c'était pas le mieux. Mais c'est ce qui se faisait déjà au début de l'histoire de Toro Rosso finalement. Ils avaient
Je peux comprendre que des écuries qui investissent n'aient pas envie de vendre leur. Après, c'est des batailles d'ego et je vois ça a vraiment plus beaucoup de signification en 2013 que de forcer Marussia à faire une voiture tout seul. Quoi.
Voilà, c'est fini pour l'heure de gloire. D'une belle heure de gloire.
Gilles, tu peux te réveiller.
On va passer à la course, au week-end, et on va commencer par les qualifs. Et cette semaine, nos deux guignols de la semaine. Comme d'habitude, on a une Williams, c'est Valtteri Bottas qui est à la 17e place, accompagné, là encore, c'est un peu une habitude depuis le début de saison, de Gutiérrez à la 18e place. À noter, parmi donc Caterham et Marussia, que nos deux Français ont battu leur coéquipier. Ils ont fait 19 et 20. Pic 19 et Bianchi 20. En Q2, à la 16e place, on retrouve la 2e Williams, Pastor Maldonado, 15e Nico Hülkenberg. Décidément, les Sauber cette année, c'est pareil. Perez.
La chute a été très impressionnante là aussi.
En 14e, il y a McLaren. Là encore, on peut parler de belles chutes.
Ah hein. Oui, ça c'est.
Jean-Éric Vergne s'est classé 13e, derrière Felipe Massa, 12, et Jenson Button à la 11e place. Et
Vergne un peu. Dommage de. Alors le contraste est saisissant. C'est un peu ça le problème de. C'est un peu ça le problème de Toro Rosso. C'est-à-dire que chaque week-end le contraste est saisissant. C'est juste le pilote qui change. Quoi. C'est que là, c'est vrai que pendant que Ricciardo enchaînait les très bons tours et allait aisément se qualifier en Q3, Vergne à ce moment-là fait une erreur. Sort trop large. Quoi. Fait vraiment une erreur de trajectoire et. Ça reste toujours son, même si la voiture s'est bien améliorée, c'est assez palpable. Ça reste quand même toujours son péché mignon, quoi. Les qualifs, il est moins performant dans cet exercice-là et c'est malheureux parce que le potentiel derrière, c'est toujours pareil en course. Là, on l'a vu jusqu'à sa crevaison, c'était quand même plutôt solide dans ses performances. Et il y a toujours ce handicap. Et alors là, c'est vraiment criant, quoi. Et c'est bien malheureux parce que c'est. C'est vraiment en ce moment que les regards se tournent après que Weber ait annoncé sa retraite, quoi.
Enfin, le week-end prochain, ça peut très bien être l'inverse. Jouer un peu au yo-yo les deux pilotes en Rosso, sincèrement. Pour moi, je pense, enfin, je l'ai déjà dit, je pense que Vergne, fondamentalement, est meilleur. Il est arrivé à être un peu plus régulier en qualif les trois dernières courses avant Silverstone. D'ailleurs, il avait montré, il était systématiquement devant ou juste derrière à Barcelone, derrière Ricciardo. En course, il est meilleur que Ricciardo pour moi. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, selon les résultats bruts, c'est un peu plus compliqué de vraiment séparer les deux, de dire celui-là. Il fallait en choisir un aujourd'hui pour en prendre dans l'écurie. Ce serait un peu. Je pense que c'est un peu aussi ce qui fait réfléchir Red Bull parce que quand Horner sort l'excuse de l'expérience, ça me fait quand même rire parce que j'ai été regarder. Je pense que Vettel, si j'ai bonne mémoire, avait 26 Grands Prix dans les pieds avant d'arriver chez Red Bull. Les deux, ils en ont plus. Donc, je pense que Vergne c'est 40 et une dizaine de plus pour Ricciardo, donc au niveau des nombres de grands prix, ils ont plus que ce que Vettel n'avait en 2009, donc l'expérience, je pense qu'ils l'ont quand même, mais si le statut de Red Bull
ouais,
a changé entre temps, mais
c'est peut-être plutôt ça d'ailleurs, c'est peut-être plutôt ça parce
en l'absolu,
que tu prends Vettel, c'est clair qu'il avait assez peu de courses, même si il y avait sa maturité, son pilotage qui parlait pour lui au volant d'une Toro Rosso, qui était meilleure que la Red Bull de 2008, hein. Mais en tout cas, il y avait du côté de Red Bull, on n'était pas du tout sur le même statut, c'est-à-dire celui d'une équipe qui dominait la F1. Vettel, tout mature qu'il était, a grandi avec Red Bull. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression, effectivement, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais qu'il fait un Vettel bis, et que, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, ils le trouveront évidemment jamais dans leur, en tout cas, en l'état des choses, ils le trouveront jamais à un niveau de maturité tel qu'ils pourront se dire, on leur confie une Red Bull sans problème. Là, à l'heure actuelle, je suis pas certain que les deux en soient, soient au niveau que qu'on souhaiterait les voir chez Red Bull. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il va quand même falloir justifier aussi l'existence de ce junior team. C'est toujours pareil. Là, moi, on me dit Raikkonen chez Red Bull. Enfin, moi, je serais Red Bull. Évidemment, Raikkonen, tu regardes, mais tu vas aller faire cohabiter combien de temps, quoi. C'est ça le truc. C'est à ce moment, pendant ce temps-là, tu vas encore refaire la même tambouille derrière, c'est-à-dire refaire patienter deux pilotes jeunes pour finalement qu'ils aillent se perdre dans la nature parce que tu ne t'en voudras pas ensuite. Enfin, c'est quand même, je sais pas, je trouverais ça quand même complètement ridicule de la part de Red Bull de pas aller piocher dans leurs réserves, mais en même temps, s'ils fixent des critères trop, c'est sûr qu'ils iront jamais, quoi.
Et puis l'avantage de Raikkonen, c'est qu'il n'aura aucun problème à signer un contrat à l'année. Comme ça, lui, s'il s'emmerde l'année d'après, il peut s'en aller comme il veut. Maintenant, s'il faisait monter un pilote de chez Toro Rosso, il pourrait mettre qui à la place? J'ai pas l'impression, dans les pilotes un peu en dessous, qu'il y ait des gens qui aient le calibre encore actuellement d'être en Formule 1, quoi. Da Costa en Formule 3.5, j'ai pas l'impression qu'il brille plus que ça.
Après, pour ce qui est de la filière Red Bull, de toute façon, il y a un moment donné, il faut arrêter de parler, et puis il faut prendre un risque. Mettre un pilote en Formule 1, il y a toujours un risque. Comme mettre un pilote chez Red Bull, il y a forcément un risque. Comment ils vont réagir à la pression? Parce que c'est ça l'histoire. Vettel, avant la Formule 1, il a pas non plus été stratosphérique. Chez Toro Rosso, il marche plutôt bien, mais au début, face à Bourdais, c'était compliqué. Là où Vettel a été de force, c'est quand il est arrivé chez Red Bull. Il a complètement explosé. Il était sous pression, dans une écurie capable de gagner. C'est là qu'il a prouvé qu'il était capable d'être bon. Aujourd'hui, je peux pas vous dire si Vettel sera bon dans une Red Bull, si Ricciardo sera bon dans une Red Bull. C'est quasiment impossible. Donc, pour limiter la prise de risque, vous êtes sûr que Raikkonen y marchera. Voilà. C'est la seule différence.
Ouais, non, mais totalement, mais c'est ça, mais à un moment, il va quand même falloir qu'ils en sortent, qu'il va falloir qu'ils sortent quelqu'un de ce moule, quoi, parce que Vettel, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, hein, n'est pas subjugué par les performances de la filière Red Bull, et à un moment, il va peut-être falloir eux-mêmes qu'ils agissent pour justifier cette propre... C'est l'existence de cette filière, quoi. C'est surtout ça.
Si vous prenez les autres filières, c'était un cataclysme absolu. Ferrari a sorti personne, Toyota n'a sorti personne. Il y a le cas Lewis Hamilton qui est un petit peu à part. Là, sortir des bons pilotes, tout le monde peut le faire. Et je pense qu'ils sont partis du principe qu'ils veulent sortir une star. Et à partir du moment où vous sortez pas une star, autant aller chercher.
Non, mais c'est ça.
Qui est sur le marché, sachant que Red Bull, ils ont au moins l'intelligence de les mettre en NASCAR ou de les mettre un petit peu à droite à gauche. Voilà, aujourd'hui, si c'est moi, franchement, je suis Helmut Marko aujourd'hui, je ne sais absolument pas s'il faut que je mette Jean-Éric Vergne ou Kimi Räikkönen. C'est très difficile. Ou Ricciardo. Je pense quand même que moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que Vergne a quand même quelque chose en plus, un potentiel supérieur. Attends, j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas comment ils vont réagir. Donc, à partir du moment où il n'y en a pas un qui sort du lot, c'est quand même compliqué de, parce qu'ils font le yo-yo depuis 2 ans, ces deux-là.
Ouais. Ouais, c'est leur défaut. C'est à la limite pour avoir la chance de passer chez Red Bull, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui atomise véritablement l'autre.
Ça fait 2 grands prix qu'il était très bon. Là, il est retombé un petit peu dans son travers. Donc moi, j'étais un petit peu déçu. C'est une des déceptions du week-end parce qu'à partir du moment où vous faites votre meilleur résultat en qualifié en course à Monaco, vous récidivez au Canada. Là, vous êtes enfin sur une pente ascendante où vous marquez les esprits. Et là, il replonge un petit peu. Et c'est Ricciardo qui se remonte. Donc s'ils font ça toute l'année, franchement, c'est pas la pièce en l'air, mais je dis pas ça parce que Jeff est français, mais ce serait quand même compliqué qu'il mette Ricciardo. Franchement, aujourd'hui, je vois pas la justification de choisir Ricciardo à Vergne.
Ah bah pourtant, pour Weber, c'est le candidat...
Ah, c'est un Australien qui parle d'un autre Australien.
Je crois que Bark, il a un petit peu pris Jeff en... c'est un petit peu dans le collimateur de Weber, Jeff, depuis ses déclarations l'année dernière, un petit peu intempestives. Je pense pas qu'il s'apprécie énormément, donc bon, que Weber veuille mettre un Australien à sa place, c'est une bonne guerre. Maintenant, je suis pas sûr que Red Bull écoute...
Oui.
Mais bon, après, il y a aussi un Hülkenberg, hein, j'arrête pas d'en parler. Est-ce que ce serait pas, c'est pas plus bête non plus de mettre un Hülkenberg à ce moment-là? C'est très compliqué, la politique pilote. Je pense qu'il faut quand même plus ou moins demander à Vettel ce qu'il pense.
Oui, ça c'est sûr.
Oui, non pas qu'il empêche quelqu'un de venir à côté de lui, hein, parce que je pense que c'est vraiment pas le style.
Mais je pense au contraire. Oui, je pense qu'il sera même prêt maintenant.
Je pense que c'est pour ça que Raikkonen va venir, parce que je suis persuadé que Vettel réclame Raikkonen. Et puis il faut pas oublier qu'il sera quand même certainement à cette date-là quadruple champion du monde. Quand vous êtes 4 fois champion du monde à 26 ans, je crois que vous pouvez prendre le risque.
Ouais, non mais tellement.
Oui. Bon, maintenant, on est persuadé d'être le meilleur, ce qui est tout à fait normal. Red Bull, le risque est quand même très limité parce que je pense si vous faites Raikkonen Vettel dans une voiture qui marche bien, vous pouvez faire la saison 88 de McLaren. Il y aura peut-être un clash.
Oui.
En général, un clash par an et encore, parce que je pense que les deux sont quand même plus ou moins programmés pour pas trop clasher, contrairement à Hamilton et Alonso 2007 chez McLaren. Enfin, là, Red Bull, ils ont une occasion en or de Raikkonen, il va pas rester 25 ans non plus. Pendant 2 ans, vous mettez un Ricciardo ou un Verne de côté à la fin de la saison prochaine, vous faites monter un Sainz ou un Da Costa, vous faites un petit peu mijoter tout ça, et puis dans 2 ans, 3 ans, on avait un de ces quatre-là qui aura désormais 24-25 ans. C'est un moyen d'entretenir aussi la filière. Hein.
Ouais, sans compter que fin 2015, Vettel pourrait aussi partir. Son contrat court jusque-là, il peut encore le renouveler d'ici là. Mais
Raikkonen, c'est pas une solution d'avenir. C'est une solution
pour écraser
la Formule 1 pendant 2 ans et permettre à Vettel d'augmenter sa notoriété et le respect que les gens ont pour lui. Donc, maintenant, l'autre problème de Red Bull sera de trouver l'après Vettel. Maintenant qu'ils seront encore là en 3-4 ans, ça personne peut le dire. Son Red Bull, ils pourront aller chercher qui ils veulent. S'ils continuent comme ça, je pense qu'ils pourront débaucher n'importe qui, même Hamilton. Quand vous êtes une bonne écurie, il n'y a pas beaucoup de doutes à vous faire pour les pilotes.
Oui, non, mais totalement, de toute façon.
Oui, c'est un problème de riche, quoi.
En Q3, Fernando Alonso a fait la 10e place, Kimi Raikkonen 9, derrière son coéquipier, Romain Grosjean 8, Sutil 7e place, Ricciardo 6e, Di Resta avait fait le 5e temps, Mark Webber 4, Vettel 3, et donc première ligne, une habitude quand même depuis le début de saison, tout le temps, mais c'est quand même une belle grosse habitude, Nico Rosberg 2e et Lewis Hamilton 1er.
Avec une belle marge, hein, quand même. 4 dixièmes de mémoire.
Oui, 4 dixièmes.
C'est pas mal. On peut juste signaler la très belle performance de Di Resta. C'est dommage que la voiture était un peu trop légère.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc il a été exclu des qualifications pour 1,5 kg. La voiture pesait 640,5 kg au lieu des 642 minimum. À noter, même si ça ne change pas grand-chose, que Van der Garde avait pris 10 places de pénalité, 5 pour avoir causé un accident au Canada et 5 pour changement de boîte. Pour Hamilton, c'est sa 28e pole position, la 14e pour le constructeur Mercedes, la 96e pour le motoriste Mercedes.
C'est sûrement une de ses plus belles, en tout cas. Il y a pas... Déjà, parce que Silverstone est quand même un circuit assez sérieux, on va dire, contrairement à certains. La marge est quand même assez phénoménale, hein, vous disiez, 0,452, c'est quand même assez...
Oui, c'est inhabituel hein, à cette époque.
Bah, je crois que c'est le plus gros écart de l'année, je crois, entre les deux premiers.
Je pense depuis bien longtemps, parce que il y a quand même en général, cette année c'est un petit peu moins vrai parce que les écarts se sont creusés, mais l'année dernière il y avait très souvent 8-9 pilotes dans la même seconde, donc non, c'est vraiment une très belle pole position. Il en avait besoin, hein, oui, parce qu'il fallait absolument, il était très concentré tout le week-end, c'est un circuit qu'il apprécie, hein, c'est clairement un circuit pour lui. L'anglais, l'école anglaise de pilotage, j'avoue que son tour m'a vraiment, vraiment impressionné.
Ah, Lewis.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
On va passer au top 10 de la course. On va d'abord commencer par les pilotes qui ne sont pas dans le top 10 avec un record. Oui, le précédent record était de 1 point. Cette semaine, Guido van der Garde a reçu 0 point. Malgré tous les votes qu'on a reçus, il a reçu 0 point.
Ah bon?
Oui.
Malgré son gros week-end.
Malgré son énorme week-end. Matt Chilton, 2 points. Gutiérrez, 6. Ensuite, on trouve les pilotes Williams, Bottas, 16. Maldonado, 18 points. Charles Pic, 32. Bianchi, 46. Hülkenberg, 74. Button, 112. Pérez, 122. Grosjean, 156. Et le 11e, c'est Jean-Éric Vergne avec 226 points. Le vainqueur de votre vote du top 10 du SAV a marqué 1611 points. À noter, Ben, t'as donné un point à Maldonado.
Oui, bah en fait, il fallait mettre 10e. Et je me suis dit, comme il n'a pas eu le point en course, comme c'était la 600e, 599, vu que ça se discutait.
De c'est William, un point de pitié, en fait.
Au moins lui donner un point dans le SAV. Et, oui, parce qu'en même temps, j'aurais pu mettre Hülkenberg, qui après la dernière Sticard gagne autant de positions et qui lui marque le point de la 10e place. Mais voilà, Maldonado pour marquer les 600 Grand Prix de William.
Ah ouais, là, c'est vraiment la dèche. Hein.
Bah non, mais ça, c'est voilà, ça, c'est joué. Ouais.
Et donc, à la 10e place, il a marqué 311 points. C'est Paul Di Resta. Fab, tu l'as classé 6e, moi je l'ai classé 7e. Donc il partait de loin.
Ouais, bah c'est surtout pour ça, quoi. C'est surtout pour ça, et faut pas oublier aussi qu'il finit la course avec un aileron abîmé aussi, hein, dans un contact. Puis c'est aussi pour récompenser, c'est aussi pour récompenser sa belle qualification quand même, hein, parce que la Force India est vraiment dans une très très bonne passe en ce moment. Ça se ressent à la fois en qualification et en course. Là, en qualification, il était quand même excellemment bien placé. Alors malheureusement, bien sûr, trop léger, mais c'est négligeable le gain de ce poids en moins. Mais après, niveau course, une course, alors évidemment, c'est toujours pareil, ça sera teinté pour tous les pilotes qui ont bénéficié du safety car, on dira ils ont bénéficié du safety car. Alors effectivement, mais on peut évacuer ça tout de suite. Il reste qu'il a fait quand même une belle remontée, une course propre et sérieuse, alors que c'était quand même pas les conditions les plus favorables pour ce genre d'exercice. Course d'attaque assez intéressante, et puis donc voilà, à la fin, qui termine avec un contact qui lui fait quand même... Il déstabilise un peu la voiture. Donc c'est vrai que moi je l'ai bien placé pour ça, quoi. Après, je trouvais pas que d'autres méritaient d'être mieux classés, donc voilà.
À la 9e place, on trouve le pilote Toro Rosso, Daniele Ricciardo, 371 points. On l'a tous les trois, 1008e.
C'est sa position d'arrivée, hein. voilà, j'ai le classement sous les yeux, donc voilà. Non, mais c'est voilà, c'est bel qualif. 5e sur la grille, après la pénalité... Di Resta, voilà. C'est la meilleure position d'une Toro Rosso depuis 2008. Non, 6e en qualif, je crois que c'est illégal sa meilleure position. Donc voilà, très belle qualif. Course, il fait 8e. Je pense qu'il repasse pas au stand. Il fait partie de ceux qui rentrent pas au stand au moment de la deuxième safety car. Mauvais choix, il était 4e avant la safety car. Une jolie course quand même.
Bam.
Oui, bah de toute façon la même chose. Hein. Après, voilà, la fin de Grand Prix est quand même très très inégale, hein, entre les pilotes du milieu du top 10, quoi. Et il fait partie de ceux qui malheureusement n'ont pas l'opiniâtreté, on va dire, de rentrer. Alors ça se paye, c'est malheureux. Après sa course. Fin. Moi, je reste marqué par le fait que c'est lors du premier relais, à la fin du premier relais, quand il rentre au stand, quand il sort des stands, il perd un peu de temps sur les deux Lotus. Enfin, il perd beaucoup de temps sur les deux Lotus. Et ça m'a un peu chagriné, parce que c'est en plus à ce moment-là où c'est le moment où Vergne crève. Donc ça va déclencher le safety car, mais il était un peu en difficulté. Donc il a fait une belle course. Après, je l'ai mis à sa place, place d'arrivée. Ça reste quand même une course très sérieuse et c'est ce dont les pilotes Toro Rosso ont besoin, voilà. Mmh. Surtout lui qui a toujours, enfin la dernière fois qu'il était parti, alors de mémoire c'était à Monaco, qu'il était dans les 6-7 premiers au départ et que la course était mal terminée, je sais plus. À Bahreïn, voilà, oui, pardon. Ah oui, on va dire, on confondre. Voilà, c'est ça, et ça s'était pas super bien placé après, donc rien que pour ça c'est quand même une bonne chose qu'il finisse à cette place-là, quoi.
À la 8e place, on trouve le deuxième pilote Force India, Adrian Sutil, 436 points. Alors, je l'ai mis 9e, Fab, tu l'as mis 10e, mais alors Ben, tu l'as mis 3e de ton classement.
Ouh.
Ouais, bah il aurait pu finir sur le podium.
Ils
hein,
sont nombreux à avoir pu finir sur le podium.
Oui, mais il a occupé la 3e place pendant un long moment. Ça aurait été sympa de voir une Force India tout court sur le podium. Déjà en Australie, il avait fait une très belle course. Partie des gens qui ont fait le mauvais choix... au moment de la safety car, et il recule dans le classement. Il est 3e parce que... Enfin, il y avait d'autres derrière, mais je les voyais pas mettre si haut, donc...
C'est quand même compliqué
de
mettre aussi loin devant Di Resta, quand même, parce que Di Resta, ça fait quand même 3 Grands Prix au Force India, à cause d'erreurs, le font partir quadruple d'Hersh, 18 ou 17, et là 21, et à chaque fois, il remonte... 6, 7, 8, Sutil, il m'a pas non plus, il est à sa place, parce qu'il y a des abandons devant, Di Resta, il grimpe, quoi. Je trouve manquer un petit peu d'euphorisme sur la course de Di Resta, quand même, parce que 3 fois de suite, revenir de quasiment dernier, dans les points, c'est quand même pas mal.
Mais c'est vrai que Di Resta, il fait une très belle course aussi, mais, est-ce que c'est ce qu'on l'a moins vu à la télé, ou c'est moi qui étais, moins bonne humeur, j'en sais rien, mais c'est pas, pourquoi au Canada, c'est vrai que j'avais trouvé qu'il avait fait une très très belle course. Ici, finalement, il fait plus ou moins le même genre de course. termine un peu plus bas dans le classement, je crois, mais enfin c'est des détails. Mais voilà. Et, j'ai fait mon top 10, je l'ai fait. J'ai une feuille à 4 où j'ai fait tout tas de configurations différentes en regardant en revoyant la course cet après-midi et on dirait ça est un nom classé.
Et tu bois aussi, il faut le dire, beaucoup.
Que de l'eau.
Pas de la bière.
Non, pourquoi de la bière? Je vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce prix?
Tu mangerais pas du chocolat aussi?
Et alors, d'Ambrosio, vous l'avez mis combien?
Premier, Ben, comme à chaque fois.
Je l'ai pas mis d'Ambrosio.
Sans déconner.
À la 7ème place, on trouve Kimi Raikkonen qui a marqué 735 points. Alors, Ben, là encore, tu l'as mis 4ème.
Ouais, mais j'aurais pu le mettre 5, en fait.
Le mec, il regrette.
Non, lui, je regrette de l'avoir mis aussi, par contre. J'aurais pu le mettre 5ème, mettre Massa devant lui. Voilà, fin de. C'est un peu par frustration que de l'avoir vu louper la deuxième place. Et après réflexion, c'est vrai que ça fait, enfin c'est un peu ce qu'on a reproché à Alonso en Malaisie. C'est vrai que l'équipe le fait pas rentrer, mais enfin lui a quand même le charisme pour dire l'équipe.
Ouais, c'est ça, voilà.
Donc finalement,
ils se sont excusés, mais
sinon il fait mauvaise course, fait finalement une course moins agressive et peut-être moins spectaculaire qu'un Fernando Alonso part derrière lui sur la grille. Globalement, il fait finalement le même genre de course, dans le sens où il est deuxième avant la deuxième safe car, et Alonso n'est pas très loin derrière, il recule parce qu'il rentre, enfin voilà, avant de remonter, mais...
Évidemment, si on prend la fin de course, c'est rageant pour lui que ça se passe de cette manière. Bon, après, comme tu le dis, après moi c'est toujours pareil, j'ai toujours du mal à déterminer... disons que la responsabilité est collective. Voilà, c'est plutôt de cette manière-là que je veux l'aborder, parce que on sait pas trop qui a vraiment la main à ce moment-là, parce que c'est vrai que les pilotes, mine de rien, ils ont beau être il y en a quand même assez, enfin c'est quand même le sentiment, peut-être Thibaut tu pourras nous confirmer ça, mais qu'il y en a beaucoup quand même, et même avec un palmarès impressionnant, qui se repose quand même beaucoup sur leur équipe et qui finalement prennent assez peu de décisions de cet ordre-là en tout cas. Après moi j'ai pas été enfin impressionné par la course de Raikkonen, quoi. C'est un peu la continuité des grands prix précédents, c'est-à-dire que déjà en qualif c'est quand même assez copieusement poussif, quoi, avec la voiture. Alors c'est toujours pareil, hein, on parle toujours de cette température qui est pas suffisamment haute. Bon, ouais, le problème c'est que bon, au bout d'un moment, va falloir quand même faire une voiture qui peut être assez homogène, quoi. C'est un peu ça aussi qu'on reproche toujours un peu à Lotus, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont une très bonne voiture, ils ont une excellente voiture, peut-être la meilleure dans certaines conditions, mais le problème c'est que les dernières années nous ont montré qu'il fallait quand même une voiture assez homogène, quoi, pour l'emporter. Et après, ouais, non, mais j'ai pas trouvé une course fantastique, quoi. Alors après, pour revenir sur l'épisode, Kimi is faster than you, bon, c'est le leader de l'équipe, dire là, il y a pas de problème à ce niveau-là, c'est normal que Grosjean s'efface. D'ailleurs,
c'est surtout la nature du message, enfin l'intitulé qui.
Oui, ça a prêté à sourire, mais à limite, moi, je m'interrogerais peut-être sur le moment de ce message, parce qu'effectivement, avant, ils se battent quand même comme des chiffonniers les deux, si on se souvient bien. Enfin, le temps de revenir, notamment sur Vergne, ils se mettent quand même ils se font des belles passes d'armes, quoi. Et ce message arrive un peu à la fin. On voit bien que Grosjean s'écarte, c'est juste au moment où Vergne, le pneu explose. Ça aurait peut-être un message qui aurait dû être un petit rappelé un peu plus tôt. Après, voilà, je n'ai pas été particulièrement subjugué, quoi. Donc moi, je l'ai mis 9ème.
Ça fait déjà 3 mauvais résultats de suite pour Lotus. Parce que bon, les deux dernières fois, ils avaient dit, comme d'habitude, Monaco, Canada, c'est un peu particulier. Là, pour vous, c'est plus inquiétant déjà. Bon, on verra la semaine prochaine.
Ici en course, François, la performance n'était pas mauvaise avant de prendre la décision de pas rentrer. D'ailleurs, je pense qu'on est aussi influencé par le fait qu'on a juste entendu le message radio où après Raikkonen dit « je suis pas sûr qu'on ait eu raison ». Sûrement eu un message radio avant qu'on n'a pas entendu, donc voilà. Après, est-ce que il faut vraiment les écarter de la course au titre, j'en sais rien. Je pense qu'ils sont quand même toujours dans le coup pour jouer des bons résultats.
Je parle même pas de parler de jouer le titre, hein, juste de remonter un peu le niveau, qui était quand même un peu mieux en début de saison.
Oui, parce que je veux pas casser l'ambiance, mais on a eu cette même discussion au spécialiste F1 là, sur Canal, il y a 2-3 numéros. Moi, j'ai quand même un petit peu de mal à ce qu'on puisse admettre que Lotus joue le titre. Moi, je dis ce que je vois sur place, je connais cette écurie, je connais leurs moyens, je connais comment ils fonctionnent. Je veux dire, c'est une écurie qui est sublimée par un pilote extraordinaire. Non, faut pas se raconter d'histoire. Pour que Raikkonen soit champion du monde, il faudrait quand même qu'il y ait un cataclysme assez phénoménal. Je veux dire, Red Bull a la main quand même techniquement, Ferrari est quand même censé avoir la main, McLaren devrait l'avoir, Mercedes là. Je veux dire, Raikkonen, c'est le trouble-fête extraordinaire. C'est le. Alors effectivement, c'est marquer 1 point, 2 points et 10 points en les 3 dernières courses, c'est pas extraordinaire. Maintenant, il me semble que Kimi parfois fait vraiment des miracles incroyables. Moi, je ne les ai jamais considérés comme des favoris pour le titre.
Oui, non, mais là, c'est vrai que pour le coup, on a eu finalement assez peu l'occasion d'en parler dans l'émission parce que beaucoup de choses ont accaparé le temps d'antenne, on va dire, mais. C'est roux et noir, voilà. mais c'est vrai que ça fait un peu bulle spéculative, quoi. Lotus, quoi. C'est à ce côté, ça gonfle. Puis par contre, le jour où ça va exploser, je pense que ça va être malheureusement un peu comme dans une moindre mesure, je dirais. Même si c'est pas vraiment comparable, mais la saison dernière, enfin, c'était. Ah, c'est même pas comparable. Disons quoi, là, on est quand même face à une écurie qui, de toute façon, au bout du compte, manquera développement, enfin, quand même une équipe qui repose sur quelque chose d'assez instable, ça bouge beaucoup en coulisses, enfin, c'est pas très bon, enfin, c'est pas super bon signe qu'on ait des évolutions en coulisses, qu'on se pose aussi des questions sur le leader, finalement, de l'équipe, enfin, c'est pas signe d'une équipe qui a réellement une assise suffisante pour vraiment se battre sur la durée d'un championnat. En plus, les saisons sont vraiment très longues, aujourd'hui ça se paye. Puis encore une fois, je reviens au problème fondamental de la voiture. C'est une voiture qui certainement est vraiment très tendre avec ses gommes, mais à un moment c'est une voiture qui est pas homogène, et ça se voyait aussi beaucoup dans les stratégies employées. Vous en discutiez dans un SAV précédent, mais c'était pour les bons résultats là du début, c'était toujours un petit peu la même stratégie, quoi. C'était une stratégie vraiment conservatrice, quoi. On était sur une stratégie à 1 à 2 arrêts quand les autres en faisaient toujours un de plus. Ça peint. Vous posiez la question de savoir si c'était un choix ou si c'était plus ou moins une contrainte parce que la voiture leur permettait ça. Moi, j'ai quand même beaucoup l'impression que c'était une contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement ils faisaient de bons résultats parce que la voiture avait un très bon rythme, mais dès que tu arrives sur des conditions qui ne leur conviennent pas, sur des circuits peut-être un peu, enfin sur des circuits où les conditions ne conviennent pas, mais face à une voiture qui, alors certes, reste quand même assez bonne, avec un pilote très bon et qui arrive à en sortir beaucoup de choses, mais malheureusement, les limites se voient tout de suite. Alors en plus, si t'ajoutes ce manque entre guillemets d'opportunisme dans la stratégie, bah là, malheureusement, tu recules dans la hiérarchie. Et effectivement, ça me paraît un petit peu délicat, parce qu'on on voulait une opposition avec Raikkonen, parce que c'est très vendeur, hein, mais en même temps, ça me paraît assez illusoire de se bercer d'un tel scénario, quoi.
Après, le Lotus, je pense qu'ils font face à une difficulté assez historique en Formule 1 quand on est patron d'écurie ou ingénieur. C'est d'avoir toujours du mal à comprendre qu'un pilote peut faire la différence quand même, mine de rien. Et moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu peur chez Lotus, c'est que je ne les sens pas paniquer dans l'optique de perdre Raikkonen. Je rappelle quand même que quand Schumacher part de chez Benetton, Benetton, ça gagne plus. Que quand Alonso part de Renault ne gagne plus. Il y a quand même plusieurs exemples dans l'histoire. Et moi, si demain, je vous retire Raikkonen, je pense que Lotus redevient une écurie à se battre avec Force India, voire peut-être même être derrière. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Les ingénieurs pensent toujours avoir fait une voiture extraordinaire qu'un pilote n'arrive pas à mettre au niveau. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le pilote fait encore la différence. C'est ce que je ne cesse de répéter chez Red Bull. Je n'arrête pas de dire que Weber n'a encore jamais été vice-champion du monde. Donc, ça veut dire que la Red Bull, elle peut aussi être 5e au championnat du monde. Or, elle est première depuis 3 ans. Donc, quand il y avait Heidfeld, Petrov, ils ont fait un podium en début d'année chacun, mais bon, voilà, après, on les a plus vus. Donc, si demain, vous retirez Raikkonen, je pense que Lotus, on ne les revoit plus. Il faut aujourd'hui, Lotus, ils sont Raikkono-dépendants. Quand tout va bien, ça gagne, ça peut faire des trucs, et puis de temps en temps, il est aussi un petit peu moins bien. Monaco, il fait une petite erreur quand même en serrant Perez, parce qu'il sait que l'autre,
oui,
le tire au bout. S'il lève et qu'il perd une place, c'est pas très grave. Kimi, il n'est pas parfait, il fait quelques erreurs aussi. Mais bon, voilà, franchement... Alors maintenant, Kimi, il a aussi gagné le titre comme ça en 2007, hein, l'outsider... Il a arraché le truc parce que McLaren s'est tiré une balle dans le pied, donc je vois pas Vettel se tirer une balle dans le pied. Donc...
Non, mais sur le pilote, enfin, dépendant, même chez les Lotus, il devrait le savoir. C'est vrai quand Kubica son accident dans l'intersaison avant 2011, ils embauchent Heidfeld, et la saison, elle a rien à voir avec 2010 était, avec Kubica qui avait quand même été, je crois, qualifié systématiquement dans le top 10 en qualification et qui a ramené des points.
Ouais, mais les écuries aiment pas ça, parce que voilà, c'est Williams aussi un petit peu commis des erreurs dans ce domaine-là. Ils aiment pas trop être dépendants du pilote. Comme disait Briatore, un pilote c'est un salarié comme un autre. Ils ont un petit peu de mal à comprendre que Que vous pouvez mettre des pilotes moyens dans une excellente voiture, bah, ça fera pas grand chose. Par contre, si vous mettez un excellent pilote dans une voiture moyenne, ça fera un résultat supérieur.
Bah, ce qu'on a vu avec Alonso l'an dernier chez Ferrari.
Hein. Ça. Donc, voilà. Maintenant, une écurie comme Williams a viré la plupart de ses champions du monde dès qu'ils sont devenus champions du monde.
Oui.
C'est un petit peu compliqué. Je pense que chez Lotus, ils sont bien conscients de ça, mais ils veulent pas non plus, parce qu'il va falloir attirer quelqu'un d'autre derrière aussi. Donc, si vous expliquez aujourd'hui que sans Kimi, vous êtes nul, vous allez vous retrouver avec Grosjean, Maldonado et la chute sera terrible. Donc, je pense qu'ils essayent aussi de surjouer un peu le truc en espérant, j'en sais rien, mais qu'un Hülkenberg ou je pense qu'ils ont quand même espéré un petit peu pour Weber à un moment donné. Donc, ils surjouent un petit peu le truc. Maintenant, franchement, j'espère pour eux qu'ils vont pas le perdre, parce que là, ça risque de faire très mal.
Tu verrais qui ou qui est plutôt pressenti si jamais Raikkonen s'en va? Est-ce que Grosjean resterait? Est-ce que Maldonado, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité?
Moi, je pense que Hülkenberg est quand même très bien passé.
Ouais.
Maintenant, certains disent qu'il est très bien placé chez Ferrari aussi. Donc voilà, on sait très bien que c'est quel dommage qu'il ait fait cette erreur d'aller chez Sauber, parce que dans la Force India, je pense que ça ferait assez mal. Voilà, maintenant, faut pas non plus se mentir. Même un Hülkenberg très bon, ce sera pareil quand même. Aujourd'hui, Lotus va perdre un top driver et un champion du monde. Par qui vont le remplacer? Par un bon pilote, mais pas par un champion du monde. Donc, il va falloir prendre ça en compte et reconstruire, parce que il n'y a pas de champion du monde de libre. Après, à moins, j'en sais pas, est-ce qu'un Massa, Hülkenberg, ça ferait pas, si Massa s'en va de chez Ferrari, vous le récupérez, il apporte des infos de Ferrari. Moi, je pensais que Weber pourrait éventuellement aller chez Lotus, parce que, voilà, tant il semblerait qu'il n'ait pas voulu rester en F1, quoi qu'il arrive. Weber, Hülkenberg, ça aurait pu faire quelque chose d'assez sérieux aussi. Je lis Maldonado. Si vous prenez Maldonado chez Lotus, c'est quand même une erreur. Ce serait une erreur terrible, quoi.
Là, en hyper au change, quoi. C'est clair que.
Oh oui.
Et enfin, en hyper au change, en tout cas, au moins en pilotage. Peut-être en argent, peut-être un peu moins.
Ah ça, non, en argent, non.
Et c'est peut-être là aussi un paramètre qui sera de toute façon fondamental dans l'avenir de Lotus, quoi. C'est
surtout qu'ils n'ont pas une filière extraordinaire. Ils ont Gravity, mais bon, quand même plus ou moins orienté un peu business avec un pilote chinois, avec Charouz, avec Nicolas Prost. Bon, voilà, c'est pas la filière qui est censée vous sortir demain le nouveau Raikkonen de la saison 2001 ou 2002. J'ai un peu de mémoire. Monaco, maintenant, c'est ce que j'arrête. Oui, voilà. Maintenant, c'est ce que j'arrête pas de répéter aussi, parfois, Eric Boullier, quand on t'en voit, ou, je veux dire, s'il y a eu un Raikkonen en 2001, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas un aujourd'hui. Donc, pourquoi pas avoir aussi un petit peu d'audace? À partir du moment où vous considérez que vous perdez Raikkonen et que Grosjean n'a pas forcément, répondu présent, eh ben, pourquoi pas, j'en sais rien. En 3.5, il y a quand même un petit Van Hoorn qui fait qu'il a l'air de pas mal marcher, hein, Kevin Magnussen qui a l'air... Qu'est-ce que vous faites? Vous partez du principe que vous allez chercher quelqu'un qui végète en F1 en n'étant pas sûr qu'il soit hyper motivé, ou vous tentez... Moi, je suis toujours assez étonné du manque d'audace des patrons de F1 depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on se retrouve à garder des masses à 10 ans alors qu'il y a des pilotes sur le marché. Pourquoi pas partir du principe l'année prochaine que vous en essayez 3-4 si ça va pas. Vous essayez Van Dorn, si ça marche pas, vous le remplacez, vous voyez. Ça arrivait beaucoup dans le passé, ça, d'avoir 3 ou 4 pilotes par saison. Aujourd'hui, franchement, moi, je trouve que ça manque d'audace. On a vu passer certains pilotes qu'on n'aurait pas dû louper. Je suis pas persuadé, quand je vois ce que fait Magnussen en 3.5, franchement, si c'est pour prendre Maldonado, autant aller chercher Kevin Magnussen.
Ouais, mais après c'est toujours pareil. C'est pas à toi qu'on l'apprend, mais c'est vrai qu'après l'histoire de la discipline, c'est malheureusement façonné aussi par la présence de ces pilotes qui ont sans doute un talent moindre que d'autres, mais qui ont aussi des moyens qui sont des moyens sur lesquels on peut pas cracher. Et, même si ça a été toujours vrai, parce qu'il y a toujours eu des écuries qui sont venues en F1 avec plus ou moins de garanties au niveau financier, mais aujourd'hui, quand on apprenait en début de saison qu'il y avait que de mémoire 3 ou 4 écuries qui gagnaient de l'argent avec la Formule 1, en tout cas qui n'en perdaient pas, on peut se dire aussi que malheureusement tout pilote, tout talentueux qu'il soit, doit aujourd'hui arriver avec une valise conséquente. Et malheureusement, voilà, enfin c'est il y a encore des cas assez exceptionnels. J'ai envie de dire le cas Bianchi est plutôt exceptionnel parce qu'il remplace Radziak et était quand même pas venu non plus que grâce à son talent. Mais là encore, Bianchi arrive avec derrière lui une assise Ferrari, mais c'est délicat de dire. Enfin, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, après, c'est évident que le talent devrait être quelque chose qui devrait être privilégié, rien que dans la conception après de ce qu'on veut faire de son écurie, de la manière dont on veut la faire grandir. Mais en même temps, et ça rejoint un peu ce que tu disais dans un sens. Ça rejoint un petit peu cette prépondérance que les écuries, enfin, pensent toujours avoir, la mainmise qu'elles pensent toujours avoir sur les performances de la voiture. D'une certaine manière, quand on privilégie un pilote, un bon pilote bien, comment dire, bien doté à un excellent pilote très peu doté, c'est aussi une manière de dire, eh bien, c'est pas grave au niveau du talent, puisque les fonds qu'il nous apporte nous permettront peut-être de rattraper sur un moyen long terme ce déséquilibre, quoi, cet écart. Mais je sais pas si aujourd'hui c'est même envisageable d'avoir des saisons dans lesquelles des écuries feraient plusieurs tests, quoi. Ça me paraît, enfin, aujourd'hui c'est très rare qu'un line-up change
Ouais, mais franchement je pense que c'est une erreur, parce que la dernière écurie qui a eu un petit peu d'audace, c'est quand même Force India qui a plutôt fait des choix assez étonnants en recrutement. Or c'est une écurie qui cesse de progresser. Le choix d'Iresta, franchement, quand ils sont allés le chercher, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont aller chercher un champion de DTM?
Ah oui,
quand vous voyez ce qu'il fait
DTM, ouais.
Moi j'essaierais Bruno Spengler dans une F1 par exemple, ou Jamie Green, parce que si Iresta l'a fait, il n'y a pas de raison que Jamie Green, qui a également été champion de F3, il n'y arrive pas. Je veux dire, il y a un moment donné, si ils avaient le choix entre garder Liuzzi ou aller chercher l'Iresta, ils vont chercher un mec DTM, quand même, voiture de tourisme allemande. Et le gars aujourd'hui, ça fait 3 courses qu'il remonte de dernier et il remonte dans les points. Donc il y a aussi ces comparaisons-là. Et pour rebondir une dernière fois sur ce que tu as dit sur les pilotes payants, faut quand même pas oublier que une des sources majeures de revenus des écuries, c'est le nombre de points que vous marquez. Donc si vous amenez un pilote qui vous amène 5 et qui vous en fait perdre 10, c'est toujours pareil. Le but d'être en F1, c'est de marquer des points. Et Maldonado, l'année dernière, c'était pas le bon exemple l'année dernière parce qu'il gagne, mais il fait perdre un nombre incalculable de points. Alors heureusement, il en gagne 25 d'un coup, mais je veux dire, on sait par exemple que Grosjean a fait perdre beaucoup d'argent à Lotus l'année dernière avec ses accrochages. Donc si vous prenez un pilote qui apporte rien mais qui au final vous fait marquer 40 points, maintenant je suis pas financier, donc j'en sais rien.
Non, mais après c'est ce que je te disais, c'est l'idée de peut-être on pourra, en améliorant la voiture très rapidement, arriver à un équilibre sur un moyen long terme, quoi, c'est ça. Mais après c'est pareil, moi on sait pas vraiment, parce que c'est vrai que effectivement il y a ce côté-là aussi, mais est-ce que les écuries privilégient pas des solutions, parce qu'aujourd'hui, bon, on parle de pilotes payants, il y a aussi ça aussi, c'est quand même pas les pilotes payants d'antan, quoi, c'est pas les pilotes payants qui avaient pratiquement jamais mis les pieds dans une voiture de course, quoi, c'est quand même des pilotes payants qui, même si Maldonado effectivement a tous les défauts, il a des défauts, ça c'est clair, il a du mal à les gommer, quoi qu'il peut ça s'agir, mais c'est quand même un pilote qui a beaucoup bourlingué dans les catégories inférieures. Alors après on peut parler de son niveau, mais il a quand même eu une certaine expérience des courses en monoplace, il vient pas non plus de nulle part, il vient avec une manne financière, donc après il est pas insensé de penser que on se disait que ça serait un pilote qui peut-être d'ailleurs, enfin l'expérience le prouve, j'ai presque envie de le dire, même si c'est pas forcément quelque chose de très régulier, mais il a remporté une victoire, c'est quand même ça lui assure sans doute au moins chez Williams pour l'instant, ça lui a assuré sa place en tout cas, mais est-ce que derrière tout ça il y a pas un raisonnement qui serait au lieu d'avoir un très bon pilote et puis de pas avoir les moyens d'améliorer la voiture tout de suite au début de l'année avant qu'on ait les points, est-ce que on fait pas le choix au contraire de se dire on va pouvoir fournir tout de suite quelque chose de plus performant et puis au fur et à mesure arriver à ce que le pilote monte lui-même en performance? Et
moi je pense que vous mettez Hülkenberg dans la Williams l'année dernière, il y a deux fois plus de points au final.
Même peut-être Barrichello, je sais pas, même peut-être
ça,
Barrichello.
C'est clair.
Là, cette année, Maldonado, il est en Bottas, commence à prendre plus ou moins. Bon, là, le dernier exemple n'est pas forcément bon, parce qu'en Bretagne, c'était l'inverse. Maldonado qui vient en F1, moi j'ai rien contre lui, c'était absolument, voilà, quand vous êtes champion de GP2, vous êtes obligé d'aller en Formule 1, parce que ça devrait quasiment être automatique, voilà. Maintenant, l'année dernière, la Williams, c'était une très bonne voiture, notamment à Barcelone, face à un équipé très faible aussi, ce qui a quand même permis de magnifier aussi Maldonado. Maintenant, Maldonado, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas vraiment d'intérêt en Formule 1. Je suis parti au moment où Bottas le bat plus ou moins.
Ouais, Bottas fait quasiment, on peut quasiment dire qu'il fait jeu égal avec Maldonado, Bottas.
Un Bianchi, un Sharpie, dont on parle très peu aussi. Qui a le mérite d'être un pilote quand même très très solide, intelligent, au-dessus de la moyenne. Voilà. Et, maintenant, on peut aussi dire qu'un Buemi faisait quand même plutôt du bon boulot, hein, parce qu'on peut dire que non plus que Ricciardo et Vean, il fait des trucs totalement mirifiques par rapport à ce que lui a fait. Alguer Suari aussi, qui mine de rien avec quand même 19 ans, il a fait des... je veux dire, il y a du monde maintenant. Voilà, je suis peut-être un petit peu naïf, mais je pense qu'il faut avoir plus d'audace sur le marché des transferts à partir du moment où vous n'avez pas un top géant à disposition. Et puis même, Hamilton, il bat Alonso en 2007. Je veux dire, les surhommes, ça n'existe pas. Si vous mettez un pilote dans une bonne voiture, bien préparée au bon moment, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Maintenant, il faut tenter, puis il faut se lancer, vous le mettez, vous voyez ce que ça donne.
On va passer à la 6e place du classement. C'est son premier abandon après une série de 14 Grands Prix. Peut-être même 14 Grands Prix dans les... peut-être pas dans les points, mais en tout cas sans abandon. C'est Sébastien Vettel qui a marqué 927 points. Qu'il y a cru.
Que 6e?
Oui. Et je crois qu'il n'y a pas que sur les circuits ou en ce moment chez Vettel.
Ouais. Bon, en même temps, il fait pas non plus, c'est pas la course du siècle, hein.
Non.
Il est deuxième, le leader abandonne. En qualif, il prend quand même une petite valise. C'est comme la course de Rosberg. C'est sûr que c'est difficile de les mettre quand vous voyez un Weber qui remonte, un Alonso qui s'arrache, un Di Resta qui fait une remontée. D'avoir Vettel qui est premier à partir du moment où le leader abandonne, c'est pas la plus belle course de Sébastien Vettel. Hein.
Non.
Moi, je l'ai mis 6e d'ailleurs. Je suis content. Ah oui, c'est ça, il prend un bon départ. Après, il fait pas une mauvaise course derrière Hamilton, les écarts sont faibles. Enfin, forcément, Hamilton abandonne très tôt, donc il a pas le temps de creuser, mais je pense pas que les écarts auraient été très très grands. Maintenant, peut-être même qu'il aurait quand même pu aller chercher Hamilton à la régulière. Ça, on en sait rien, on le saura pas. Mais après, il fait une course tranquille de leader, quoi. C'est pareil pour Rosberg, d'ailleurs. Moi, on en reviendra plus tard, je l'ai mis juste derrière Rosberg, donc...
Ça reste une course, disons, de Vettel, une course normale d'un mec qui se retrouve leader après la défaillance d'Hamilton. Mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne course d'ensemble, sans qu'aurait. Enfin, s'il avait passé la ligne en vainqueur, ça m'aurait pas. Alors, moi, je l'ai mis deuxième parce que voilà, dans mon classement, ça s'est goupillé comme ça. Et enfin, en même temps. Je vois tellement d'autres possibilités de perdre une course que je me dis que celle-ci est vraiment pas de son ressort, et pour le coup même si je suis un des premiers, j'avais été un des premiers rapidement me lasser de, enfin, comment dire, oui, à me lasser de sa domination, il faut quand même reconnaître que si il est toujours présent, et voilà, moi je récompense le fait que la victoire aurait dû finir par lui revenir. Je suis pas sûr que.
Là encore, c'est pareil, il est pas le seul ce week-end.
Non, ben c'est justement pour ça que le classement était assez difficile à faire d'ailleurs, hein, à ce niveau-là. Hein, mais après, moi je suis quand même surpris qu'il soit aussi loin classé, quoi. Je suis pas sûr qu'une course d'un autre pilote de la même course, je suis pas sûr qu'on aurait eu exactement un même classement. Alors moi, je l'ai peut-être surnoté, certainement d'ailleurs, mais 6e, c'est vraiment pas cher payé, quoi. Enfin, c'est presque banaliser ce qu'il réalise, quoi. Enfin, c'est
surtout la remontée de Weber qui lui jette un petit peu d'ombre pour une fois, parce que de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer une mauvaise course de Vettel. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu une mauvaise course de Vettel en F1. On sait ce qu'il est capable de faire. Il est ultra solide, notamment dans les premiers tours de course, au départ, comme un Alonso. Là où il me déçoit un petit peu, mais c'est même pas une déception, mais il faut bien chercher, parce que sinon, on va lui faire une statue maintenant et rentrer chez nous. Vu le rythme de Weber dans sa remontée, je trouve que quand il est en tête, il crosse pas du tout sur Rosberg, qui revient quand même petit à petit. Maintenant, il y a un ingénieur qui lui crie dans l'oreille toutes les deux minutes, attention à l'arrière, attention à l'arrière. Voilà, c'était une course solide de Vettel, comme il sait faire. De toute façon, il fait pas d'erreur, ou quasiment pas. Maintenant, pour une fois, je trouve que Weber, me semble-t-il, était un petit poil plus véloce quand même. Ce qui est souvent le cas à Silverstone, d'ailleurs, si je me souviens bien.
Là où Vettel a été pour moi impressionnant, c'est sur le premier restart. Il colle quasiment, je crois, une seconde à Rosberg d'entrée. Il accélère très tôt une fois que la safety car est hors de son chemin. Et il surprend complètement Rosberg qui reste derrière, passe la ligne, il y a déjà une seconde, quoi.
Ouais, mais Vettel, il maîtrise les départs, il maîtrise les restarts, il maîtrise les hot laps, les in laps, les arrow stands. Il maîtrise tout. C'est un schumacher à... Dans ce côté-là, il maîtrise toutes les phases où un Grand Prix se joue. Après, parfois, ouais, entre les deux, c'est un petit peu, pas poussif, mais plus neutre, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes tout seul en tête, vous pouvez pas non plus faire des burns à tous les virages, et puis c'est difficile d'être impressionnant quand vous êtes en tête.
Mmh. Bah ouais, non, mais bon,
déjà qu'il s'offre le petit plaisir de faire le meilleur tour en course régulièrement dans les derniers tours.
Là, Weber s'est tellement fait écraser depuis le début de la saison qu'on peut au moins rendre sur cette course-là, Weber était certainement un poil plus rapide.
À la cinquième place, on trouve le pilote Ferrari Felipe Massa qui a marqué 1253 points. Qui fait partie des victimes.
Les victimes de quoi? Oui, parce qu'on en a pas parlé, mine de rien,
oui.
De tout ça, mais... Effectivement,
on va y venir.
Bah oui, non mais voilà quoi. C'est lui qui avait fait un départ assez incroyable quoi. Alors ça, c'est vraiment pas un départ opportuniste. Le mec, bon, je vais passer par l'extérieur tranquillement, et un couloir, un boulevard.
Oh, il enrhume tout le monde.
Ah, c'est très impressionnant. Hein. Bon, alors faut pas qu'il y ait quelqu'un qui décide au dernier moment de se décaler parce que sinon c'est pas drôle.
Bah, sinon ça fait Grosjean Weber. Hein. Ils essayent de passer quasiment à 4 dans le premier virage. Et forcément, ça serait rétrécit. Il y en a un qui touche, quoi.
Mais impressionnant début de course qui est malheureusement complètement freiné par cette crevaison. Et lui s'en tire très bien parce que pour le coup les autres c'est arrivé en ligne droite. Lui ça arrive dans le virage et heureusement que c'était pas heureusement que c'était pas le 130R, heureusement que c'était pas un virage un peu plus entre guillemets dangereux parce que comme il sort là il y a aucune possibilité pour lui de se rattraper. Déjà les autres c'est assez miraculeux, Vergne c'est assez miraculeux que voilà. Alors si on peut souligner l'avantage de ces grands dégagements, même si voilà moi c'est toujours un petit peu gênant je trouve, mais enfin si on peut voilà souligner l'avantage de ces grands dégagements, c'est bien que dans ces situations là où le pilote malheureusement ne peut plus rien faire, ben ça leur permet de voilà d'éviter le incident trop grave. Après sa course est quand même plutôt courageuse quoi derrière, parce que lui pour le coup vraiment fait partie de ces pilotes qui ont subi une crevaison par le fait même sa voiture est pas trop endommagée a priori, mais enfin faut quand même repartir derrière et réussir une remontée comme il fait. Puis c'est surtout voilà vraiment le contraste entre sa qualification qui était vraiment pas terrible, puis même son début de week-end qui commençait très mal, qui commençait un peu sur les bases des week-ends précédents. Franchement j'ai trouvé le saisissant, moi j'ai mis quatrième, j'ai trouvé saisissant le contraste entre son départ où il vraiment prend tous les risques de manière vraiment opportuniste et puis ce qui s'était passé les 3-4 semaines avant quoi, où on avait vraiment l'impression qu'il était sous l'été noir, qu'il était vraiment sonné, ça donnait cette impression d'être sonné par par ses accidents à répétition quoi, et puis finalement il termine dans le top 10 quoi, avec une belle remontée sur la fin, bon là aussi lui aussi aidé par la safety car, mais de manière générale, moi j'ai vraiment apprécié sa course et c'était du bon Massa quoi.
Mais t'as tout à fait raison de parler d'utiliser l'adjectif courageux, c'est exactement ça Massa, parce que dans tous ces week-ends, il vous donne une raison de le virer et une raison de le garder. C'est bien pour ça qu'il reste d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est, c'est à chaque fois au courage, au forceps, ouais. Il vous fait un truc, parce qu'effectivement, là, ça fait 3 courses, qu'il fait sortie de piste sur sortie de piste, il se prend des boîtes assez monumentales. Vous regardez les écrans, il est 15, 16, puis tout d'un coup, à l'arrivée, vous regardez le classement, il est 6. Donc il est au forceps, il se sauve, et c'est vraiment, Fab, c'est exactement ça. Il survit en Formule 1 au courage.
Oh mais c'est survivre, oui ça colle bien je trouve à l'après 2009 de Massa, c'est survivre quoi et l'énergie du désespoir parfois, c'est assez impressionnant.
Que même en qualification, enfin c'est vrai qu'il se fait coller 4 dixièmes par Alonso, mais au mieux il pouvait faire 11e, Alonso fait 10, la Ferrari était clairement pas la meilleure voiture sur un tour à Silverstone. Même en qualif, bon, c'est pas exceptionnel 12 pour une Ferrari, mais enfin c'est pas non plus la catastrophe si tu compares par rapport à Alonso. Très très bon départ. S'il avait pas eu son problème de pneus, il était candidat. Je pense qu'il aurait au moins pu faire 5 ou 4. Parce que de toute façon, on lui aurait demandé de laisser passer Alonso. De toute façon, moi, j'ai des exigences beaucoup plus faibles pour Massa maintenant. Parce que c'est Massa, à partir du moment où il fait le boulot d'un bon deuxième pilote et qu'il ramène des gros points pour Ferrari, sans faire trop d'ombre à Alonso, pour moi, il fait son boulot. Je pense qu'on lui demande pas plus. Et cette année, globalement, c'est vrai qu'il s'est pris des grosses sorties à Monaco et au Canada, mais sur le reste de la saison, c'est ce qu'il faisait. Donc il est, pour moi, le parfait lieutenant en 2013, par ce qu'il n'avait pas toujours été en 2012, en tout cas en première partie de saison.
Alors je l'ai dit, Massa, c'est une des victimes. Il va bien falloir qu'on en parle quand même pendant l'émission. Ça fait quand même plusieurs semaines, si ce n'est moi quand même, que de toutes parts on dit faut changer les pneus, quand on ne dit pas carrément faut changer le manufacturier. Bon, c'est arrivé à Silverstone, est-ce que d'une certaine façon, à partir du moment où on ne changeait pas, ce qui devait arriver allait forcément arriver?
Mais des problèmes de pneus de ce genre, on en a déjà eu à Bahreïn.
On en a eu,
C'est-à-dire que c'était quasiment, globalement, presque les mêmes pilotes. On a eu Hamilton à la fin des essais libres 3 à Bahreïn, si je dis pas de bêtises. Massa a eu des soucis en course aussi, donc...
Une Toro Rosso aussi.
Une Toro Rosso avait eu un problème, voilà. Donc, des problèmes, il y en a déjà eu. Des solutions ont été proposées, elles n'ont pas forcément été acceptées.
Oui, parce que c'est
aujourd'hui,
il
n'y a plus le choix, quoi.
Bon, aujourd'hui, tout le monde va dans le même vent. Bon, vu ce qui s'est passé, c'est logique. On peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même un peu un bal des hypocrites. La FIA qui dit oui, on va se réunir mercredi. Les équipes, il y a certaines équipes qui ont refusé alors que Pirelli avait proposé des changements.
Ouais, non mais.
Oui, d'ailleurs, elles sont pointées du doigt par d'autres. Ça se commence déjà à se tirer dans les pattes.
Et c'est malheureux, mais on a passé une émission la semaine dernière à retracer l'affaire du test gate, l'affaire oui. Mercedes Pirelli, en prenant un point de vue, en essayant de prendre un point de vue neutre, un point de vue d'une justice, sportive évidemment, mais d'une justice quand même, sur une affaire. Et il se trouve qu'une semaine après, enfin 10 jours après, une semaine après, on a un Grand Prix dans lequel, alors, je veux dire, après, quelles que soient les raisons, on dépasse le cadre de la simple recherche, même si on y reviendra. Pirelli a fourni un document assez intéressant. Quelles que soient les raisons qui ont amené à ce qu'il y ait eu ces 4 ou 5 crevaisons, on se retrouve dans la situation de se dire, vous voyez, ce qui s'est passé avec les tests secrets de Mercedes, mais on en était rendu là, quoi. Et on l'a déjà dit. Mais là, c'est l'exemple criant du fait que quand on a une réglementation si spécifique en la matière, c'est-à-dire qu'on demande quand même à un manufacturier de faire des gommes qui ne vont pas tenir trop longtemps, mais qui vont être suffisamment résistantes pour permettre la sécurité, pour à la fois que le spectacle et la sécurité soient respectés. Mais malheureusement, quand on ne donne pas à ce manufacturier, alors que ce soit Pirelli, mais que ce soit n'importe qui, certains lèvent l'étendard de Michelin, comme si Michelin, avec les mêmes contraintes, ferait des pneus meilleurs. J'en suis pas vraiment certain, quoi. Enfin, voilà. Et encore une fois, faut quand même se mettre...
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thibaut? Parce que souvent, on le voit dans les forums, on dit « Pirelli, c'est de la merde, remettez-nous du Michelin ». Est-ce que tu penses que, franchement, dans les mêmes conditions, Michelin aurait fait des pneus beaucoup mieux?
Je suis pas totalement persuadé, je suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça qu'il faille poser la question. Pirelli, moi j'ai pas trop envie de leur taper dessus parce que voilà, ils ont eu le courage de quand même de venir dans une discipline où normalement vous êtes censé mettre en avant les évolutions technologiques, le développement et la qualité des produits, et on vous demande de faire l'inverse. Moi maintenant j'en ai un petit peu marre de parler tout ça parce que ça fait déjà depuis 2 mois. Moi aujourd'hui j'ai fait un truc sur mon blog. Je pense qu'il faut aujourd'hui prendre de la hauteur. Je pense que il faut revenir à 2 ans en arrière où je pense que ça a été une erreur de dire écoutez, on va mettre sur le dos d'un manufacturier l'entière responsabilité de produire du spectacle. Aujourd'hui, on en est quand même à une situation assez ubuesque où une Formule 1 est une voiture qui progresse de course en course, d'année en année, quand le règlement est stable, et que le seul domaine où on demande de régresser, c'est le contact avec le sol. Aujourd'hui, une F1, c'est ce que je mets dans mon article, c'est un colosse au pied d'argile. Ce sont des aérodynamiciens qui chargent la voiture comme des mules en aéro, qui fait souffler des échappements, qui fait des DRS, des doubles DRS, qui fait des ouvertures dans les écopes de frein, dans les porte-moyeux, pour que la chaleur soit utilisée pour chauffer les gommes. Et au-dessus de ça, vous mettez un pneu qui est justement fait pour pas être très très bon. Voilà, tout ce qu'on a eu depuis, ça a été des erreurs politiques, des erreurs de communication. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le bilan de tout ça. Il faut que la responsabilité du spectacle, elle soit diluée. Il faut qu'il y en ait un peu sur les freins, un peu sur l'aéro, un peu sur les pistes. Mais vous pouvez pas arriver et dire rendez-vous compte. Moi, ce qui m'avait choqué l'année dernière, c'est qu'entre 2012 et 2013, on demande de faire régresser les pneus. Alors vous savez que les voitures ont progressé. Donc, à partir du moment où au 8e Grand Prix, je pense que toutes les écuries, en tout cas les meilleures, ont progressé peut-être déjà d'une seconde. C'est sûr que quand vous arrivez à Silverstone, les pneus ne tiennent plus. Et ça, c'est assez logique presque. Donc sans prendre à Pirelli, je trouve que c'est pas très intelligent parce qu'ils savent faire des pneus, sinon ils seraient pas là. Parler de nostalgie et dire Goodyear ferait mieux, j'en suis pas totalement sûr. Je pense que voilà, moi j'ai été partisan de ça à un moment. Clairement, j'ai changé d'avis ce week-end. Voilà, je pense que pour l'année prochaine, en plus où les nouveaux moteurs arrivent et il y aura déjà un petit peu de gestion de consommation et tout comme ça, il faut foutre la pelle aux pneus. Il faut laisser les constructeurs, les manufacturiers faire des vrais pneus de F1 et l'année prochaine, on aura un super Kers quand même. Mmh. Ça permettra de doubler certainement plus. Vous avez un DRS, vous n'avez pas besoin d'un pneu aujourd'hui qui se détruit de 2 secondes en un relais. Donc laissons Pirelli la possibilité de faire des bons pneus et je suis persuadé qu'ils savent en faire.
Ouais, mais et puis d'autant qu'on voit bien que sur cette question-là, il y avait déjà en plus sur la question des pneus, il y avait déjà la contrainte de devoir chausser 2 types de gomme différents dans une même course. Enfin, je veux dire, c'est pas les pneus, c'est pas la première fois qu'on fait reposer sur les pneus une partie du spectacle. Et là, ça devient et tu rejoins complètement parce que ça devient complètement fou dans une discipline qui est le pinacle du sport automobile, logiquement. On en vienne à demander à ce que les pneus... Alors, c'est dans un sens aussi un défi technologique. Mais encore une fois, si on pose ça comme postulat de départ, il faut donner aux manufacturiers les moyens de s'assurer que ce sera quelque chose de possible. Parce que, je veux dire, encore une fois, on tape taper sur Pirelli, ça sert absolument à rien. Eux, ils subissent les choses. Et quand ils essaient de faire quelque chose, et on les cloue au pilori parce qu'on dit, bah, c'est pas bien, il fallait proposer à tout le monde, machin. Mais oui, mais aujourd'hui, là, prouve que Pirelli avait raison de s'inquiéter et que tout le monde en F1 aurait dû, à un moment donné, s'inquiéter sur cette question. Parce qu'on joue pas avec on jouait pas qu'avec le spectacle. Malheureusement, on jouait avec la sécurité. Ça s'est vu à Silverstone. Alors, c'est bien que ça se soit vu là où la F1 est née. Parce que, d'une certaine manière, c'est beau de se ridiculiser à l'endroit où on est né. Parce que ça fait tout de suite prendre conscience de quelque chose. Mais à un moment, on peut pas laisser une telle responsabilité peser une telle responsabilité dans le produit F1 sur une entreprise et ne pas lui donner les moyens d'agir. Et encore une fois, ça remet en lumière ce qui s'est passé avec les tests secrets qui étaient presque c'était presque se dire on est aux abois, il faut qu'on fasse quelque chose et on va le faire hors règlement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on va autoriser Pirelli à utiliser ce qui aurait dû être les essais jeunes pilotes pour faire en fait un grand test de pneus grandeur nature avec les pilotes 2013, les voitures 2013. Donc en gros, ce pourquoi on a jugé Mercedes il y a une semaine, eh ben on va l'autoriser pour toutes les autres écuries dans quelques semaines. Voilà, on en revient là et c'est tout ce système qui au bout d'un moment explose parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des incompatibilités entre la recherche de spectacle et la volonté d'assurer la sécurité, la volonté de réduire les coûts et en même temps la volonté de proposer un spectacle et la volonté de proposer du spectacle. Voilà, à un moment il faut toutes les meilleures, enfin c'est malheureux à dire mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et là sur ce week-end on n'est pas passé loin. Encore une fois je répète, quelle que soit la cause, enfin que ce soit la cause des vibreurs machin, enfin, c'est quand même inédit qu'il y ait 4 pneus qui explosent, enfin, dans une même course, récemment, quoi. Je veux dire, voilà, par le passé, on peut en parler, mais dire dans l'histoire récente, non, 3 pneus en 4 tours, non, désolé. Donc, je trouve que c'est et ça rebat complètement ce qu'on a pu dire d'ailleurs la semaine dernière, parce que là maintenant on a c'est plus le problème du spectacle, c'est plus le problème des performances de certaines écuries ou d'autres, c'est maintenant la question de la sécurité. Et s'il y a bien quelque chose de fondamental depuis très longtemps à F1, mais surtout depuis le milieu des années 90, c'est la sécurité. Et on l'a peut-être un petit peu oublié de ce côté-là, quoi.
Le débat est très compliqué parce que franchement, ce week-end, on a un mélange de choses complètement contradictoires. C'est-à-dire que on a justement pas de sécurité, mais on a du spectacle quand même.
Oui.
C'est pas simple non plus effectivement, d'échapper à qu'un pneu explose à 300, c'est pas le but de la manœuvre. Maintenant, parfois, on se retrouve un peu à un Grand Prix à 30 ou 20 ans. C'est pour ça que le dossier pneumatique, il est très compliqué à gérer parce qu'on sait pas vraiment exactement quelle décision prendre. Ce qui était sûr, c'est que s'en prendre aux pneus, c'est ce qui avait de plus simple.
Oui.
Parce que plutôt que s'en prendre aux souffleries, ouais. C'est les quatre bouts de, les quatre trucs ronds noirs, sachant que c'est en général là qu'il y a le plus d'écart à faire, hein. Vous pouvez passer une année en aéro, vous allez gagner 7 dixièmes, avec un pneu, vous pouvez gagner 3 secondes. Donc, ils se sont dit ça. Maintenant, vous pouvez pas aujourd'hui en Formule 1, avec des voitures aussi différentes, des moyens aussi différents, assurer une dégradation sur tout type de voiture. Moi, je pensais qu'il y aurait une catastrophe comme ça bien avant. Je sais pas comment Pirelli a évité, en 2011 ou en 2012 d'en arriver là, parce que moi qui adore la technique, aujourd'hui vous avez des intérieurs de roues affolants en Formule 1. McLaren l'année dernière, vous avez une sorte de petit clapet qui s'ouvre de temps en temps pour que la chaleur sorte, pour chauffer l'intérieur de la gomme. Vous avez des systèmes de soufflage, des soufflages internes, et au-dessus vous avez une gomme qui est faite pour pas durer. C'est-à-dire c'est pas logique du tout. J'ai pas d'exemple, mais c'est comme si vous demandiez à un poids lourd de monter sur un ring avec des gants pour sortir les plats du four. C'est complètement anachronique. Alors maintenant, on va remettre des pneus qui marchent et on va nous dire qu'il se passe plus rien. Et puis dès que les pneus explosent, oh là là, ils ont failli se tuer, c'est une catastrophe. Faut aussi que nous, les fans, on prenne une part de responsabilité. Je pense qu'on réagit beaucoup trop vite. On réagit très mal. Moi, j'entends aujourd'hui que les années Schumacher, excusez-moi l'expression, c'était de la merde. J'ai pas dans l'idée que toutes les saisons ont été insupportables aussi. Il faut pas non plus exagérer. Il y a eu des très belles courses à l'époque Bridgestone aussi. Il faut pas non plus. Donc je pense que les médias ont aussi une part de responsabilité, parce que de temps en temps on réagit de façon complètement folle. Donc je pense qu'il faut se calmer. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine il va y avoir un nouveau moteur, et qu'on en aura déjà assez de la complexité du moteur avec la gestion de la consommation pour derrière rajouter une couche avec les pneus en plus. Parce que là, si vous devez faire attention de pas tomber en panne d'essence au bout de 30 tours, en plus faut faire attention que les pneus explosent pas, là ça devient un petit peu c'est un peu comme en cuisine, il faut faire ressortir une saveur d'un plat, faut pas faire ressortir 50 saveurs, parce que sinon ça a plus de goût, quoi. Donc moi je pense que la FIA a une chance incroyable aujourd'hui, c'est que l'année prochaine le moteur va revenir au centre de tout. Donc profitons-en pour foutre la paix aux pneus. Revenons à quelque chose d'un petit peu plus simple, des pneus qui tiennent. Moi je suis partisan d'une gomme assez tendre et une gomme en bois, puis débrouillez-vous avec. Voilà, il n'y a pas besoin de... Comment voulez-vous que Pirelli, moi je leur ai demandé 25 fois de faire un sujet là-dessus, ils m'ont jamais répondu parce qu'ils savent pas, je pense. Comment vous faites pour qu'un pneu dure entre 5 et 10 tours? Techniquement, comment vous créez une gomme qui va tenir 5 tours? J'avoue que c'est comme si on demandait à Total de faire une essence qui a pas le même rendement, ou qui au bout de 5 tours donne plus la puissance, ou à des freins qui au bout de 5 tours freinent plus. J'avoue que je suis assez étonné par ce choix-là. Donc, on s'est trompé. Aujourd'hui, on est arrivé au bout du ridicule, parce que là, franchement, c'est pas très sérieux. Donc, changeons pour l'année prochaine.
Là, on enregistre mardi soir. Il faut attendre quoi de la réunion de demain? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées là depuis dimanche. On a l'impression qu'ils ont déjà tout sorti et finalement elle va pas servir à grand chose, à part peut-être à se gueuler dessus, surtout vu ce qu'est sorti Pirelli ce soir sur les causes de ce qui s'est passé dimanche.
Bah, faut rien en attendre, parce qu'on sait ce qu'il faut faire depuis le lendemain de Barcelone, hein. C'est pas très compliqué, hein.
Oui.
Il y a un article du règlement, l'article 12.6.3, vous pouvez pas changer les pneus sauf en cas de raison supérieure de sécurité. La FIA aurait dû intervenir juste après l'Espagne, elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il va y avoir des essais, mais Mercedes va pas pouvoir les faire alors que c'est eux qui explosent leurs pneus. On a fait tout un pataquès de leurs essais privés. Je veux dire, ils ont fait 1000 km, d'accord, mais ils ont pas non plus... c'est pas une triche monumentale non plus. On ne sait pas ce qu'ils ont essayé vraiment. Bon, j'attends rien de ce qui va se passer à la FIA demain, parce qu'il faut rien attendre de ce genre de truc. C'est mon cheval de bataille, c'est ça. Il faut pas demander aux écuries de faire le règlement. Donc, la FIA, elle doit faire le règlement et l'imposer. Elle doit pas faire une réunion. Comment voulez-vous que Red Bull et Ferrari se mettent d'accord? Dimanche soir, je peux vous dire que les patrons des trois écuries qui avaient refusé le changement de pneus, ils rasaient les motos.
Oui.
voilà, ça fait 4 courses qu'on nous explique qu'il faut pas changer les pneus parce que ça va aider Red Bull. Et au final, leur écurie fait plus rien depuis 4 Grands Prix et en plus, les pneus explosent. C'est quand même, et Red Bull gagne quand même.
Oui, en plus, oui. En plus.
Donc, c'est quand même assez ridicule. Donc, que la FIA prenne ses responsabilités, elle décide d'un règlement, et puis ceux qui sont pas contents, ils vont s'inscrire en WTCC ou ailleurs. Maintenant, effectivement, on a rigolé un petit peu tout à l'heure du communiqué Pirelli, qui est quand même assez extraordinaire, parce que globalement, vous allez nous l'expliquer ça mieux que moi, mais ça explique que quand on utilise bien leurs pneus, tout se passe bien, et que globalement, ils les ont mis de travail, ils les ont mis à l'envers, sous gonflé. Mais Pirelli, il faut aussi qu'ils se défendent à un moment donné.
Là, j'ai une traduction, en effet. Donc, il y a quoi? Il y a 4 points. Donc, le premier, c'est les pneus, donc, arrière ont été montés à l'envers. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de marque sur les pneus. Et puis, c'est des incapables qui ne sont pas capables de distinguer les pneus bout droit des pneus gauche. 4 équipes, hein. Pas 8, 4. Donc, ouais, les pressions pneumatiques, visiblement trop faibles que celles recommandées par Pirelli. Du carrossage apparemment trop important, et les fameux vibreurs, hein, ce qui avait été évoqué dimanche. Et donc ils en concluent en effet que, en gros, nos pneus sont sûrs, mais on les change.
Non, mais c'est la réaction d'orgueil de Pirelli. Là. Je veux dire, ils se sont crachés dessus depuis le début de l'année, voire depuis 2 ans. Les écuries sont incapables de se mettre d'accord. Je pense que c'est un petit... Je vois ça de cette réaction, une réaction d'orgueil en disant, bon, vous êtes gentils les gars, mais à un moment donné, vous ne venez pas en F1, vous ne payez pas 40 millions et pour vous faire cracher dessus. Donc, je trouve ça assez caricatural parce que en plus, il n'y a pas que ces pneus-là qui ont explosé. On entend quand même l'ingénieur de Vettel nous expliquer que le pneu est quasiment coupé.
Oui, énormément.
Je veux dire, ça a touché tout le monde.
Ouais, voilà. Rosberg et Alonso ont aussi dit qu'ils avaient eu des problèmes, mais eux, en rentrant en stand, donc ils ont eu la chance.
Il ne faut pas se mentir, ça a touché tout le monde. Maintenant, Pirelli, bon, ils essayent de se défendre, parce que si vous faites un communiqué en expliquant « Vous avez raison, nos pneus, c'est de la merde », vous êtes mort. Donc, je pense que c'est un communiqué qui vient de la direction, qui a sûrement été négocié avec les écuries, parce que je peux pas croire que vous balanciez un truc comme ça sans les prévenir. C'est certainement une sortie un petit peu honorable qui a été offerte à Pirelli. Les écuries vont mettre leur orgueil de côté, vont peut-être avouer « Oui, on a peut-être joué un petit peu trop ». Parce que sinon, vous retrouvez si Pirelli s'en va, il n'y a pas de pneus l'année prochaine.
Bah c'est ça, mais en même temps, Pirelli, quand t'es manufacturier unique, que comme on en parle depuis tout à l'heure, tu vises pas la recherche de performance, enfin tu vises pas aller plus loin dans ton domaine parce que tu vendras pas à des personnes lambda des pneus qui tiennent pas, enfin voilà, c'est à un moment, c'est là aussi il y a aussi une contradiction. Ton seul gain, c'est en matière d'image, j'ai envie de dire, t'es partenaire de la F1, mais quand t'es partenaire de la F1 actuellement, alors en 2011-2012 ça allait, on louait Pirelli parce que c'est eux qui fournissaient le spectacle en gros, mais là, depuis le début de l'année, ils se font quand même passer dessus et repasser dessus à longueur de journée, dans le grand, enfin, ce qu'on disait un peu au début, mais le grand public aujourd'hui ne fait pas la distinction entre ce qui est réellement imputable à Pirelli et ce qui est imputable à la F1 dans son ensemble. Aujourd'hui, enfin bon, ils sont sans doute beaucoup plus proche de rester que de partir, mais enfin voilà, faut y aller là quand même dans ces conditions là, hein, parce que maintenant t'as une image en plus déjà de pas avoir l'esprit compétition et l'esprit développement technologique, faut que tu reconstruises une image, c'est à peu près le seul truc que tu pouvais retirer de la F1 à ce moment là. Bon, c'est délicat, et c'est clair que ce genre de communiqué, alors après, ça vaut ce que ça vaut, effectivement, peut-être que c'est négocié avec les écuries, mais ça fait effectivement un peu, oui, réaction d'orgueil, un peu, voilà, on s'est retenu jusque là, mais maintenant que les choses vont changer, voilà, on met un petit coup derrière la tête de tout le monde. Ah, c'est pareil, je sais pas comment ça va être reçu, mais c'est une situation très difficile à gérer, et c'est clair que faudrait, et heureusement qu'ils vont sans doute rester, parce que s'ils s'en vont, là je sais pas comment on fait, quoi, là, on fait rien, quoi, là. En tout cas, dans ces conditions-là, ça me paraît délicat dans ce système-là, ça me paraît délicat effectivement d'appeler quelqu'un à la rescousse. Là, ça c'est pas les écuries qui vont faire leurs pneus eux-mêmes. Donc voilà quoi.
Après, il y a la composante économique aussi que Formule 1 est quand même obligé d'évoquer. Faut quand même rappeler que les écuries, en tout cas les top teams, se font de l'argent sur les pneus quand même, parce que Pirelli. Certes, fait payer ses pneus, mais Pirelli paye pour la publicité autour du circuit et c'est redistribué aux écuries. Si j'ai bonne mémoire, Michelin, c'était pas vraiment ces conditions-là. Michelin, il payait les écuries. Bridgestone, il redistribuait beaucoup moins aux écuries. Je veux dire, certaines écuries ont manqué un petit peu de, comment je pourrais le dire, de, pas politesse, mais ils ont un petit peu oublié qu'à la fin de l'année, ça leur apportait un peu d'argent aussi. Donc, si Pirelli paye 40 millions pour derrière se faire insulter, c'est quand même, un petit peu compliqué. Une écurie comme Ferrari, je trouve que son positionnement était vraiment mal placé. Et Alonso, ce week-end, était très énervé dimanche soir. On était quelques-uns à lui rappeler que c'est son patron qui bloquait le changement de pneu. Quand il prend le pneu de Perez quasiment en plein casque, voilà, ça arrive aussi parce que son patron n'a pas voulu que les pneus changent.
Oui, c'est clair que la situation de Silverstone, elle est autant, à la limite, autant imputable. Enfin, c'est vrai que Pirelli, dans son communiqué, tape principalement sur les écuries, mais je pense qu'elles ont clairement aussi leur cause, elles sont totalement responsables aussi. C'est vrai que des propositions ont été faites par Pirelli avant que le Grand Prix de Silverstone ait lieu, bien avant, que certaines écuries ont fait, les pneus, ils nous conviennent très bien, changez rien, Bon, on voit le résultat, donc c'est vrai qu'on tape principalement sur Pirelli, mais il faut pas oublier que Pirelli a proposé, et c'est pas la première fois qu'il propose des choses. Je pense que le pneu qualification dont on parlait tout à l'heure, je pense que Pirelli avait dit qu'il était prêt à proposer ce type de pneus. Et de nouveau, les équipes sont contre. Donc c'est vrai que Pirelli, j'ai l'impression qu'ils font quand même beaucoup de propositions par rapport aux remarques qu'on leur fait, Dieu sait qu'on leur en fait. Déjà début 2012, pendant les essais, c'était les Pirelli. Il faut que les équipes prennent aussi leurs responsabilités pour dire c'est vrai que c'est pas que Pirelli. Quoi. Pirelli nous a proposé des choses et on n'a pas accepté, on aurait dû.
On va reprendre le fil du top 10 avec à la quatrième place le pilote australien Mark Webber. Il a marqué 1359 points. Alors il nous a tout fait. Il nous a fait un départ classique à la Mark Webber, donc un départ pas terrible. Et puis il y a eu cette fin, cette très belle fin quand même.
Je vais commencer tout de suite parce que je l'ai mis 7e de mon classement. Alors effectivement, moi c'est son début de fin, son tout début de course. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est quand même ça. C'est quand même fortement préjudiciable. Quoi. Alors après, tous les pilotes qui sont partis de ce côté-là ont patiné. Hein, quand on a vu les caméras embarquées sur Alonso, de mémoire sur celle sur Bottas qui montrait Vergne, qui lui aussi complètement perdu des places au départ. Mais lui, quand même, il donne quand même l'impression d'assez bien s'élancer. Et puis ça stagne assez longtemps effectivement pour finir par créer le trouble dans le peloton où d'un côté il se retrouve avec Massa qui était là parce que lui il a pris le couloir, Grosjean qui est avec à sa droite à l'intérieur une McLaren, voilà, Button. Là c'est pareil, enfin la façon dont Webber essaie de se replacer dans la trajectoire me semble un peu cavalière. Bon, alors après c'est très une appréciation très personnelle, mais enfin c'est voilà, il y a un contact, ça aurait pu être pire. Il se retrouve très mal classé, mais là encore une fois à qui la faute, je veux dire, c'est pas il se retrouve mal classé avec une voiture qui, alors effectivement pour la première partie du relais, qui effectivement va être une voiture qui va être endommagée au niveau de l'aileron, donc une voiture un peu plus difficile à conduire. Bon, malgré tout il s'en sort plutôt pas mal. Je pense que de mémoire, il doit faire un des meilleurs tours à la fin de son relais justement. Donc là après, bon, il change d'aileron. Alors je crois que c'est un peu avant que la safety car soit sortie. Lui aussi profite du fait qu'il y a la safety car qui tasse un petit peu tout le monde. Après il finit par retrouver le rythme de la Red Bull parce que bon, quand même, il s'était qualifié en 4e position. Il avait un très bon rythme de course. Donc une bonne remontée logique. Après en fin de course, c'était un petit peu le bon choix, en tout cas le choix opiniâtre de rentrer avant, d'ailleurs, lui, dans mes souvenirs, ou c'est Rosberg, je confonds peut-être.
C'est Alonso qui rentre juste avant, en fait.
Et les autres qui rentrent après.
Et qui on demande les autres font après. Ouais.
Donc là, le très bon choix d'avoir pris ce pari. Moi j'étais un peu agacé par son départ. Il avait une Red Bull, il a fait une belle course, hein, je suis d'accord. Mais mon ressenti c'était que d'autres pilotes avaient avant lui. Pouvait être placé avant lui, quoi.
Après, en 2013, je crois qu'on peut pas partir du principe que c'est lui qui loupe ses départs. Quand on sait quelle est la procédure de départ d'un Grand Prix, je dis pas que vous et moi on peut faire pareil, mais bon, il faut lâcher une palette, vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il n'arrive pas à la lâcher, il faut qu'il fasse autre chose. c'est un grand mystère, les départs de Weber. Alors autant vous dire que vous avez de nouveau la théorie du complot dimanche soir qui est apparue en conférence de presse, un journaliste anglais assez malin et espiègle, qui lui a clairement demandé est-ce que Red Bull quand ça les arrange, ne fais pas louper tes départs avec je ne sais pas quelle intervention. Bon, j'y crois moyen aussi quand même, parce que j'ai jamais cru à l'idée de d'engager deux F1 et puis d'en faire louper une son départ, ouais. J'aurais bien l'intérêt. Mais...
Et quand on se souvient de Brésil l'année dernière, bon, enfin, s'il y avait un moment où il fallait faire louper le départ de Weber, c'était peut-être là, et c'est l'inverse qui s'est passé.
Voilà, quoi, mais bon, maintenant, on peut pas mettre la responsabilité sur lui de le louper. Derrière, il fait un grand prix tout à fait honnête. Là où moi, je l'ai bien noté, c'est quand même qu'il fait des beaux dépassements. C'est quasiment lui qui fait les plus beaux, même. Donc voilà, il a tellement fait de courses catastrophiques avec la Red Bull que si là, on le met pas dans le top 3, on le mettra jamais.
Oh non, mais après...
Non, mais tout est possible. Moi aussi, j'ai hésité. Hein. Je lui avais mis la cinquième.
Après, voilà, je suis tout à fait d'accord. Il a été un des animateurs, mais...
Il a jamais été aussi proche de Vettel en qualif.
Mais c'est clair, mais c'est pour ça aussi que je dis que dans un sens sa remontée est logique et il peut presque jouer la victoire et la victoire aurait été très belle de sa part. Voilà, je veux dire, c'était pas une victoire moins méritante que celle de Rosberg, si tu vas par là, je veux dire, certainement plus d'ailleurs dans le déroulement de la course, effectivement, moi le début de course, effectivement, il doit pas être, ça c'est sûr que je pense que lui, si vraiment, il y a bien un truc qu'il aimerait faire un jour, c'est de prendre un excellent départ toutes les courses. Mais je sais pas, je l'ai mis loin, c'est vrai que j'aurais pu le mettre plus haut, mais j'ai pas eu le ressenti.
Ils font tous un bon grand prix, hein.
Non, mais c'est ça.
C'est bien un grand prix où c'est difficile de les noter. Moi, j'ai eu beaucoup de mal dans l'IMAG F1 aussi parce que Pic fait un super beau grand prix, Di Resta fait un grand prix topissime, Ricciardo fait une belle course, Sutil fait une belle course. C'est difficile, j'ai quasiment pas mis de notes en dessous de 10 parce que il y a très peu de pilotes qui sont passés à côté, donc voilà, après c'est sûr qu'on pouvait
nous-mêmes, hein, sur le classement du SAV qu'on fait cette semaine, c'est très compact, hein. Alors parfois ça peut être du simple au double entre un premier et un deuxième. Là on sent que même les internautes de fan F1 ont eu du mal, pareil.
C'est vrai que Weber, s'il prend bon départ, j'ai presque envie de dire que c'est la plus grosse menace pour un Hamilton, parce que il marche souvent bien, Weber, sur Silverstone, il a gagné deux fois. S'il était juste derrière Vettel en qualification, donc il peut prendre un bon départ aussi et jouer la victoire. Après, bon, il loupe son départ, ça devient quand même récurrent. Et il fait une belle remontée, encore heureux, j'ai envie de dire, avec sa Red Bull. Je l'ai pas classé, je l'ai mis 9e, moi, donc je suis encore moins gentil que Fab, et plus globalement, presque pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que voilà, il fait une bonne course, on l'a beaucoup vu parce qu'il fait des remontées, etc. C'est sûr que quand on se retrouve dans le peloton avec une Red Bull, on ne peut que remonter, donc...
Je pense que c'est lui qui doit gagner ce week-end, s'il se loupe en qualif, quand même, dans le dernier secteur. Il est toujours très fort à Silverstone. Effectivement, il était parti pour faire la même course que l'année dernière, faire un truc d'attente et puis gagner à la fin. Maintenant, il loupe son départ. Si c'est pas de sa faute, c'est quand même compliqué de. Maintenant, effectivement, c'est vrai que sa qualif est pas non plus. Alors, elle est bien parce qu'il est pas si loin que ça que Vettel, mais c'était la seule occasion pour lui de le battre. Et pour l'instant, il l'a pas encore fait cette année.
Et puis sur le final, il lui manque. Bah, il manque le tour de trop.
Ouais. Quoi. Et puis bon, Rosberg, il réagit bien quand même. Maintenant, s'il y a trois ou quatre tours de plus, Rosberg, il a des pneus neufs aussi. Moi, je pense que la course était pour lui. J'en avais fait plus ou moins mon favori. Voilà, tant que vous êtes 15e au premier virage, c'est difficile de gagner.
Ah non, mais clairement.
On va passer au podium du top 10. Moins que Dino.
Non. Non, mais je fais que passer. Je vous écoute, c'est voilà, bonsoir.
C'est en discret, c'est tu passes mais tu parles pas, rien.
Ah, je suis sage, moi j'écoute.
Ça change.
Et bon, j'avoue qu'il faut que j'arrive à comprendre le concept de l'émission. J'arrive un peu au milieu, je suis pas trop...
Ça va, Thibaut, ils sont gentils. C'est très, très intéressant, très intéressant.
Notre crédibilité est en jeu.
Bah, tu sais quoi, ça va faire plaisir, puisque le troisième du classement du SAV cette semaine, c'est Fernando Alonso, avec 1483 points. Lui aussi, il a impressionné en fin de course.
C'est une course à l'Alonso, il est très difficile à noter, Fernando Alonso. J'ai toujours beaucoup de mal parce que c'est pas, à part Monaco, c'est difficile qu'il passe à côté quand même. Donc c'est toujours difficile de savoir est-ce qu'il faut lui mettre 18, 17, 16. Voilà, il fait du Alonso, hein, hargneux, il remonte d'une qualif pas terrible, mais ça, il n'y est pas pour grand chose. C'est du Alonso pur jus. Il y a rien de plus, rien de moins que d'habitude. C'est un des meilleurs pilotes de Grand Prix, de toute façon. Donc, il y a pas, Vettel et Alonso, ils sont clairement au-dessus en course. Donc, ils font des très bons départs, ils dépassent bien, ils sont très intelligents dans les phases où il faut. C'est du Alonso habituel.
Ouais, je l'ai mis deuxième et j'ai noté il était agressif et incisif dès le début, Alonso. Son départ est assez moyen, il gagne pas forcément de position, je crois quand même qu'il en perd une. Il en perd une, mais tout de suite il attaque, il sait que sa Ferrari en qualification n'était pas bien, ça lui convient pas, donc il faut qu'il remonte. Donc Vettel, à ce moment-là, il est déjà devant, déjà en qualif, et en plus il a gagné une place au départ. Donc tout de suite Alonso, c'est ce que j'ai noté, agressif et incisif dès le départ, et c'est ce qu'il a fait finalement tout le Grand Prix. Donc voilà, pour moi c'est lui qui a été... J'aurais pu le mettre premier d'ailleurs, mais j'ai mis un autre pilote qui aurait mérité la victoire et qui a fait une très bonne performance aussi, même s'il termine derrière. Donc voilà, moi Alonso, pour ça, on l'a vu incisif, il a rien lâché du début à la fin, du Alonso pur jus, voilà, exactement. On pourrait résumer ça.
C'est presque un peu le revers de la médaille de la perfection, hein, Vettel et Alonso. Ils sont, franchement, j'ai pas en mémoire une mauvaise course d'un de ces deux gars, quoi. Monaco, c'est vrai qu'Alonso, il a fait une de ses plus mauvaises courses depuis bien longtemps à Monaco. Sa voiture l'a pas aidé, hein. Comprenons-nous bien, mais il lui a manqué un petit peu de harne sur cette course. Maintenant, ils sont tellement forts tout le temps là que c'est parfois plus facile de mettre un 19 à un pilote qui a fait n'importe quoi pendant trois courses qu'à un pilote comme Vettel et Alonso qui, de toute façon, sur toutes les courses, mérite entre eux, enfin, vous notez pas comme ça, mais voilà, c'est le top 3 assuré pour les deux, quoi qu'il arrive, quasiment.
Oui, puis Alonso. Ce garçon a très bon coup.
Alonso sur Monaco, il joue aussi l'intelligence du championnat. Il sait qu'il a pas la voiture pour, et il va marquer les gros points, il sait que ça peut faire la différence.
Là où Raikkonen choisit d'aller au combat, ce qui est pas très malin non plus sur le moment. Donc effectivement, la course d'Alonso à Monaco, on peut dire, ah, il a pas été terrible, mais bon, il court avec sa tête, parce que si vous vous accrochez, ça a pas beaucoup plus d'intérêt, que de laisser passer Sutil qui, de toute façon, allait passer.
C'est ce qui est bien avec Alonso, c'est qu'il n'y a jamais de panique. Enfin là, je prends sur la course, il fait pas un super départ, il fait déjà pas une bonne qualif, mais il sait que c'est pas maintenant que ça se joue, c'est un plan. Il est toujours sur le long terme. Et ça se voit à la fois au championnat, mais ça se voit aussi en course. Et moi, j'ai pas trouvé sa course exceptionnelle. Maintenant, c'est vrai que il fait le dos rond et il sait encaisser les coups, quoi. C'est le Mohamed Ali de la Formule 1. Il sait encaisser les coups. Il sait attendre son heure pour faire la décision. Et c'est vrai qu'il est mal payé sur la safety car, parce qu'il fut une époque où quand la safety car rentrait correctement sur la piste et où il y avait des règles normales, le premier qui rentrait au stand était le grand gagnant, parce que dès que tu passais pas dans les stands ou dès que t'avais un peu le retard, comme tu te retrouvais derrière la safety car, c'était quasiment un pari gagnant. Et là, on a quasiment l'impression que ce pari qui devait être gagnant a vraiment tourné en défaveur d'Alonso, qui perd 6 places, je crois, sur ce coup-là. Là où il aurait très bien pu repartir, premier, deuxième ou troisième, quoi, dans les trois premiers, et il avait une vraie chance de gagner.
Je te rejoins dans la course que j'ai pas trouvé. Alors là, c'est pareil, c'est peut-être à force d'avoir tout le temps des très belles courses de sa part, dès qu'il y en a une qui est un tout petit peu, qui te semble un peu moins intense, Mais c'est vrai que moi je l'ai mis cinquième. Mais c'est peut-être plutôt l'impression de la Ferrari finalement qui m'a un petit peu, parce que c'est vrai que en vous entendant, en me remémorant 2-3 passages de la course, c'est vrai que il y aurait sans doute une matière à le placer un peu plus haut, mais je sais pas, c'est un sentiment de pas de déception, mais presque de, comment dire, un peu neutre, quoi, parce que face à cette performance, parce qu'on sent très bien le pilote hargneux, enfin moi j'ai en tête son début de course, effectivement, où il est derrière Ricciardo, il lui met une pression incroyable, il zigzague derrière lui, quoi, c'est, enfin, il se montrait dans les deux rétroviseurs en même temps, quoi, pratiquement, et puis finalement, ils s'en tirent très très bien sur ce week-end où il aurait pu finalement assez mal se goupiller pour lui, s'en tirer avec un podium, avec une fin de course vraiment très très bonne, alors qu'il passe à travers des obstacles, le pneu de Pérez, la voiture qui est vraiment qui est un petit peu poussive ce week-end-là. C'est un petit peu, ça m'a fait penser dans une moindre mesure, À l'année dernière, quoi, à Valence. Parce que on avait
un... Valence.
Bah, c'est sûr que oui, là, dans le déroulé, Valence, il y a quelque chose de Valence dans ce Grand Prix. Mais même, sans parler de Valence, le tout premier l'année dernière, l'Australie, où on sait pas comment il arrive à sauver les meubles, à faire une place de cinquième, je crois, de mémoire, ça m'a fait penser à ces courses-là, c'est-à-dire, il te sort du diable Vauvert, quoi, il est là, quoi, c'est un peu le pendant de Vettel, quoi, c'est vraiment, il est là, quoi, c'est des mecs, ils sont tout le temps là, hors problème mécanique, et là, bah, tu vois, Alonso avec une voiture pas terrible, avec une fin de course exceptionnelle, une course agressive, bah, il s'en sort finalement, troisième, c'est clair que mais c'est là qu'on voit que c'est difficile à faire un classement comme ça, parce que là, franchement, en parlant, je me dis, il aurait pu très bien finir dans mon classement devant Rosberg, par exemple, qui fait une course sérieuse, une course opportuniste, mais voilà, que c'est pas une course du calibre de celle d'Alonso, quoi. Mais voilà, sur l'impression que ça m'a laissé, c'était quelque chose de mitigé, mais c'était sans doute en grande partie à cause de la voiture et de la crainte que j'ai pour lui, que ce soit encore difficile cette année, et avec en surimpression ces déclarations un petit peu limite fatalistes, mais en même temps très très combatives de la conférence de presse du jeudi, je crois, où il répondait un petit peu d'un ton monocorde à une question en disant de toute façon, ça fait bientôt 5 ou 6 saisons que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pars avec 5 ou 6 places d'écart avec le premier sur la grille, que je suis obligé de me battre, de remonter. Il disait ça d'une manière d'un ton un petit peu monocorde, mais en même temps, c'est cette impression, c'est que ça devient habituel, et que même lui, même si tu sais qu'il a la hargne, que je crois pas un seul instant au fait qu'il puisse être démotivé comme on a pu le lire, voilà, on finit par être impressionné par ces courses-là, donc voilà, belle course, très belle course.
À la deuxième place du classement, il a marqué 1511 points, c'est le vainqueur du Grand Prix, Nico Rosberg.
Le coup, il fait une course à la Rosberg, j'ai même envie de dire, à week-end à la
tu
Rosberg.
Tu l'as très mal classé, en effet. Tu l'as mis septième, toi. Moi, je l'ai mis deuxième, parce que bon, oui, il y a quand même la victoire.
Là, pour le coup, j'ai essayé d'être logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mettais Vettel 6, parce que, en gros, si Hamilton n'abandonne pas, il n'est pas sûr qu'il gagne. Bah, Rosberg, c'est le même principe, sauf que lui, il a 2 pilotes devant lui. En qualification, deuxième, c'est bien, mais enfin, il se fait quand même largement éclipsé par son équipier qui lui colle 4 dixièmes. Donc, on ne parle que de lui, que d'Hamilton, je veux dire. En course, ben, il est là parce que il fait une course d'attente, en gros. Il est jamais très loin. Enfin, si on regarde avant que Vettel abandonne, je crois qu'il y a 3 secondes 3. Donc, l'écart est jamais énorme. Il tient le rythme. Mais il est pas, si la course se passe correctement pour les deux devants, il est en aucun cas une menace, quoi. Donc, il gagne. Tant mieux pour lui. Il fait une bonne course. Il faut être là quand les occasions se présentent. Mais il fait pas une course non plus exceptionnelle. Donc, par rapport à mon classement de Vettel, je pouvais pas mettre
Rosberg
devant lui.
Le grand intérêt de sa course, j'ai envie de dire, ça vient pas forcément de lui. C'est que, c'est le retour de la chance dans son camp, on va dire, parce qu'en début d'année, oui, il fait quand même plutôt des belles courses. Il a 2 abandons en 3 courses, on va dire. Voilà, là, c'est son grand mérite sur cette course-là, c'est d'avoir tout d'un coup eu un petit peu de bol, parce que s'il a passé 2 problèmes mécaniques en Australie et en Chine, et si on lui demande pas de rester derrière Hamilton, il est devant en championnat. Donc là, effectivement, sa course, elle est pas. Il est là, les 2 premiers abandonnent. Il se passe pas grand chose. Maintenant, il faut être là. C'est le genre de course qu'il faut gagner aussi. Ça lui fait maintenant quand même pas mal de victoires, hein. 2 contre 0 pour contre Lewis. Elle vaut cher, cette course, hein.
Ouais. Puis à Monaco, il y a Silverstone aussi, hein. Des victoires sur des tracés mythiques.
Après, c'est difficile de pas mettre une bonne note à un pilote qui gagne, hein. C'est sûr, quand les 2 premiers abandonnent, c'est difficile de faire. J'ai bien aimé sa réaction à la toute fin quand même, parce que il montre quand même qui c'est Raoul, comme dirait l'autre. Donc il avait, je pense, le rythme pour se battre pour la victoire de toute façon, quand même, mine de rien. Sauf Lewis était au-dessus du lot certainement ce week-end. Maintenant, ce Nico, il commence à devenir pilote très dangereux, parce que s'il commence à avoir de la chance aussi, il va falloir commencer sérieusement à se demander si ce garçon va pas devenir le leader de l'équipe.
C'est la remarque que je me suis fait ce week-end. Je me suis dit, on a quand même en dehors des pneus, en dehors des polémiques qu'il peut y avoir, je me dis, on a quand même la chance d'avoir un plateau qui est quand même assez affolant, quoi. Alonso, Vettel, Hamilton, Weber qui est pas dégueulasse comme pilote, Rosberg qui pour moi ça fait quand même pas mal d'années dont on connaît le potentiel, mais là vraiment cette année on le voit. Enfin voilà, on a quand même un sacré plateau et on pourra dire, je pense, dans 10 ou 20 ans quand on sera des vieux cons, on pourra dire j'ai connu cette époque là quoi, à l'image de ceux qui sont un peu plus âgés que nous et qui disent j'ai connu l'époque Senna Prost, Rosberg et compagnie. Nous on pourra dire on a connu cette époque là et c'est vrai que je trouve que le plateau a de la gueule. Autant on peut peut-être critiquer la F1 telle qu'elle se fait aujourd'hui et vous allez peut-être parler, mais c'est en partie ce qui est aussi derrière. C'est peut-être aussi en partie ce qui est derrière le départ de Weber, mais quand même cette Formule 1 aujourd'hui, elle a quand même de la gueule, quoi. Je trouve les pilotes qu'on a, le plateau qu'on a, on a quand même la chance d'avoir des vainqueurs et des pilotes qui donnent une belle image, je trouve.
De toute façon, c'est le plateau le plus homogène certainement de l'histoire de la F1, hein. C'est sûr que parfois quand vous regardez certaines grilles il y a 30, même 10 ans, vous avez des noms totalement improbables. Aujourd'hui,
Ralf Schumacher.
mais pour revenir sur Rosberg, il a quand même 82 points. Il a que 7 points de moins qu'Hamilton, avec quand même deux abandons et une consigne d'équipe en 3 courses. Partant du principe qu'il aurait peut-être pu éventuellement prendre une moyenne de 10 dans ses deux abandons, voire plus, il est peut-être vice-champion du monde. Il est peut-être devant Alonso. Donc attention à Nico Rosberg quand même.
C'est Rose Brown aujourd'hui, je crois, qui a dit que après tout cette année commence à avoir de l'ambition.
Bah, il va clairement se mettre dans la position d'un Raikkonen en 2007. Est-ce qu'il va pas y avoir un petit peu de friction devant, un accrochage, 25 points de plus, clairement, de toute façon, il doit y en avoir un qui s'accroche. Pas s'accrocher en piste, s'accrocher au rythme des autres. Donc Nico, la grande chance de Nico, j'ai fait un papier sur lui dans Sport Auto ce mois-ci, là, et ça a toujours été le cas en sa carrière, c'est que personne n'attend rien de lui. Il a toujours été dans l'ombre de quelqu'un et si on continue à l'oublier, on risque de se réveiller à Suzuka ou en Inde ou au Texas avec un Rosberg à 26, 27 longueurs, 30 longueurs, sur un Grand Prix du Brésil complètement fou. Ce garçon, je commence à bien le sentir quand même. Parce qu'en plus, il est intelligent. Il a un petit côté Alain Prost. Il gère bien sa barque. Les médias parlent pas de lui, ce qui en général est plutôt pas mal. Il a le paratonnerre Hamilton à côté de lui. Nico, je le connais depuis longtemps. Et il a quelque chose en lui, ce garçon, quand même.
Et en plus, ce qui est intéressant avec Rosberg, c'est que c'est typiquement... On revient à un profil de pilote. On a tellement été habitué avec Hamilton et Vettel à des pilotes qui explosent d'un coup sur la scène. Lui, on l'a vu venir. Ça n'étonnerait personne qu'il devienne un jour champion du monde. Mais il a progressé étape par étape. Il a fait saison après saison. Il a commencé chez Williams. Il a un peu écumé les premières années chez Mercedes. Là, il commence à glaner des résultats. Voilà, on revient vers un parcours qui fait un peu penser par exemple, un parcours d'un Alonso ou quelque chose d'un peu plus classique, et c'est rafraîchissant de voir un pilote dans sa progression d'ensemble sur une carrière qui commence déjà, mine de rien, à être longue.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure on parlait d'Hülkenberg. Non mais Rosberg a une progression effectivement linéaire et stable, parce que lui aussi reste dans des écuries et resté dans des écuries suffisamment longtemps. Il progresse avec ses écuries. Il a une affinité avec ses écuries. Il a une affinité avec la voiture, indéniablement, au bout d'un moment. Là où un Hülkenberg a quelque chose de très étonnant, on l'a souligné à plusieurs reprises dans le SAV, mais changer d'équipe tous les ans, c'est audacieux comme pari, et c'est raté d'ailleurs comme pari cette année, là où il avait une progression constante parce qu'il allait à chaque fois dans des écuries qui, mine de rien, progressaient de niveau par rapport à l'ancienne. Là, cette année, visiblement, c'est un pari raté, et enfin... Quand irait tout ça, c'est deux progressions totalement différentes, et c'est vrai que celle de Rosberg est intéressante, parce que comme tu le dis, c'est quelqu'un qui est là depuis un moment, mine de rien, c'est quelqu'un dont on se posait quand même, on pressentait, mais dont on se posait la question de savoir si, face à quelqu'un de vraiment, d'entre guillemets, quelqu'un qui était en tout cas dans la force de l'âge, voilà, on va dire ça, parce que, je veux pas taper sur Schumacher, mais je suis pas certain que l'opposition Rosberg-Schumacher, il y ait vraiment quelque chose à en tirer, j'ai pas l'impression que tous deux étaient soit mentalement, soit physiquement dans la perfect, enfin dans le au maximum quoi. Mais là c'est vrai que face à quelqu'un du calibre d'Hamilton qui est pas venu là pour faire du tourisme du tout, c'est quand même le révélateur quoi, c'est le révélateur et c'est super intéressant de voir que Rosberg mais fait mieux que tenir le choc parce qu'effectivement enfin le Grand Prix de Malaisie était en cela très comment dire très frustrant, même moi qui suis plutôt fan d'Hamilton, c'était quand même frustrant de voir que pour que Rosberg double pas Hamilton, fallait qu'il freine en plein milieu de ligne droite quasiment quoi. Et là, c'est vrai que quand on voit qu'ils sont à leur plein potentiel, aujourd'hui Rosberg a clairement des arguments à faire valoir. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment la course sur laquelle on peut le plus le voir parce que c'est vrai que sans le coup du sort, on voit mal qui aurait privé Hamilton d'être devant Rosberg quoi. Mais c'est en tout cas intéressant parce que c'est pas une hiérarchie figée quoi. Il y a vraiment une vraie lutte, une lutte qui semble à armes égales et à un Rosberg qui peut donner sa pleine mesure parce qu'il est face à un ténor de la discipline, parce qu'il est dans une voiture qui progresse et qui progresse vers le haut quoi. Donc pour ça c'est vrai que Rosberg est très intéressant dans son évolution, dans son parcours.
Oui, il est vraiment en train de se faire un nom, parce que avant, Rosberg, oui, il était bon, mais après, quoi, jusqu'à quel point? C'est vrai que face à Hamilton, dont on sait les compétences et les qualités, là, Rosberg fait mieux que se défendre, des atouts qui sont pas les mêmes qu'Hamilton, il connaît bien l'équipe, il est là depuis plus longtemps, etc. Et n'empêche que c'est des tout petits détails, et le Rosberg, pour le moment, joue égal avec Hamilton.
C'est sûr que la comparaison avec Hamilton est toujours difficile, parce qu'il faut effectivement tenir compte du fait qu'Hamilton arrive quand même dans un nouvel environnement, que voilà, il y a des changements aussi pour Hamilton, et que la mayonnaise peut pas prendre instantanément aussi bien que avec 4 années d'expérience derrière soi. Mais mine de rien, si jamais Rosberg arrive à prendre l'ascendant cette année, si pourquoi pas il arrive à nous sortir un résultat genre être champion du monde à la fin de saison, il aura un titre chez Mercedes face à Hamilton, ça le pose pour l'année prochaine, ça crée une réputation, ça assoit une position au sein de l'équipe et même en dehors de l'équipe.
C'est-à-dire que c'est important de marquer son territoire rapidement. Hein,
À la première place, on l'a déjà évoqué, c'est Lewis Hamilton que vous avez donc mis en premier de votre classement du top 10 cette semaine avec 1611 points, il n'y a que 100 points d'écart cette semaine, c'est
merci.
Très très faible.
Non, mais déjà, ça qualif, hein, je veux dire, c'est le renouveau record du tour en qualification, enfin, le renouveau record du tour tout court, d'ailleurs, de Silverstone, nouvelle version. Il colle quand même 4 dixièmes à son équipier et, 6 dixièmes à Vettel, je crois. En course, il prend, voilà, il n'a pas le temps de montrer ce qu'il aurait pu faire, mais n'empêche qu'il maintient l'écart, il creuse un petit écart. Quand on voit la course de Rosberg, il n'a jamais vraiment été distancé par Vettel. Il avait de belles cartes à jouer devant son public. Voilà, c'est pour quasiment le vainqueur moral, même si ça veut presque rien dire, c'est ce genre de formule. Mais voilà, on a clairement le sentiment, il est passé à côté d'une belle opportunité de mettre les compteurs à un partout du côté de chez Mercedes. Et là, c'est Rosberg, effectivement, qui a 2 victoires à 0 pour le temps de se refaire. Mais voilà, pour moi, il mérite largement d'être numéro 1.
Le problème avec Hamilton, c'est qu'il faudrait pas qu'il se transforme en chat noir du plateau, parce que des victoires perdues à cause d'un problème mécanique, ça commence à... C'est arrivé plusieurs fois l'année dernière chez McLaren. Mm. Là, ça se poursuit un petit peu. Alors, c'était pas trop pour l'instant encore arrivé, mais là, c'est quand même des points qui s'envolent. Des points qui risquent de coûter cher à la fin d'année, parce que l'année dernière, on sait très bien que favori pour le titre, c'était lui. C'est eux qui ont perdu le titre, McLaren. Si il y a une série noire d'abandons pour des raisons mécaniques, et là, petit à petit, c'est Rosberg qui grignote. Hamilton, il est déjà assez instable comme ça. Si le jour où il est où il met tout bien, où dans sa tête il est nickel, son chien va bien, si le moment où il est au sommet, le problème pneumatique qui arrive à lui, c'est à désespérer, parce que ça va finir comme l'année dernière où c'est Button qui va prendre le dessus, comme en 2011, parce que ce qui est en train de se passer entre Hamilton et Rosberg, c'est quasiment un copier-coller d'Hamilton-Button. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Hamilton est plus rapide, puis à la fin de l'année, il va regarder le championnat et c'est Button qui est devant. Tout simplement parce qu'Hamilton se loupe en général 2 ou 3 fois par an de façon assez monumentale, et 2 ou 3 fois par an où il est au-dessus du lot, sa voiture casse. Sur une saison de 18, 19 ou 20 Grands Prix, il y a 6 Grands Prix que vous mettez la poubelle soit à cause de vous, soit à cause de la voiture, c'est pas étonnant que votre équipier soit devant.
Mais c'est ce qui est rigolo avec Hamilton, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Alonso et Vettel, comme quoi c'est vrai que c'est difficile de trouver des courses où ils ont fait des fautes. Hamilton, j'ai envie de dire, malheureusement, il fait rarement des fautes et il est rarement pris à défaut, mais quand il est pris à défaut, c'est généralement quand il peut gagner ou quand il est en passe de faire un super résultat, quoi. Première année, la première grosse boulette qu'il fait, c'est quand il est en passe de devenir champion du monde. Il a effectivement, en 2011, plusieurs fois gâché des opportunités. L'année dernière, c'est pas de sa faute, mais voilà, plusieurs fois, il a abandonné alors qu'il était leader. Là, ça lui arrive encore une crevaison alors qu'il est leader. Je sais plus quand, je crois que c'est en Espagne. Pareil, crevaison aux essais libres 3 alors que il a l'air très performant. Enfin, t'as toujours l'impression que quand il lui tombe quelque chose, c'est au plus mauvais moment pour lui, quoi.
C'est sûr qu'il a clairement pas de chance pour le moment. En fin, il est toujours un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. J'en reviens à ce que je disais, c'est assez terrible parce que voilà, je pense qu'Hamilton est au-dessus d'un Rosberg foncièrement, naturellement. Pourtant, le principal ennemi d'Hamilton, c'est lui-même. On sait très bien qu'il est capable de s'autodétruire lui-même et de partir totalement en live pendant 2-3 Grands Prix où on le reverra plus. Et puis il va arriver, il va vous en coller 3 de suite. Moi, ce Grand Prix, il me gêne un petit peu parce que c'était l'occasion de la résurrection et puis au final, c'est une quatrième place presque anonyme. Pas anonyme parce que, effectivement, moi, je trouve que je lui ai mis la meilleure note. Donc, c'est pas anonyme, mais le résultat l'est. Donc quand vous avez la meilleure note et que vous êtes quatrième, c'est quand même un petit peu gênant.
Et même ça s'inscrit dans un cycle aussi pour lui. C'est vrai que notamment sur l'affaire des essais Mercedes Pirelli, il y a un pilote dont on a très peu parlé, c'est Rosberg, qui lui aussi a fait des essais, qui lui aussi a maquillé son casque, etc. Mais on en a très peu parlé. Là où on a beaucoup parlé d'Hamilton. Donc c'est vrai que mine de rien, autour d'Hamilton, il y a un contexte, je trouve, en ce moment, qui fait que il y a une sorte de ferment pour qu'à un moment donné, effectivement, il puisse disjoncter et refaire des conneries un peu comme en 2011, quoi. Je sens un peu ce contexte, un bon coéquipier, quelques petites polémiques un peu autour de lui, injuste, enfin, voilà, sur les essais, pourquoi s'en prendre, entre guillemets, plus à lui qu'à Rosberg, à cause de tweets, enfin, mais mine de rien, ça met un contexte, tout un contexte autour de lui, faudra voir s'il pourra résister, à chaque fois.
Je dirais que le plus gros défaut d'Hamilton, c'est d'être anglais, presque. Il serait finlandais, ça se passerait pas comme ça. Il y a un parallèle qui est toujours compliqué à faire, mais la carrière de Mansell, elle a été aussi largement rendue compliquée par la presse. Et Hamilton, ils sont, je suis à toutes les courses pour Sport Auto, je suis à tous les points presse, ils lui tombent dessus, mais pour le moindre truc. C'est-à-dire qu'il a une nouvelle boucle d'oreille, un nouveau chien, un nouveau motorhome, un nouveau pote. Il lui tombe dessus sur absolument tout. Et à côté de ça, vous avez un Rosberg qui a le micro et qui a le droit à zéro question. Il repart dans son truc de son côté. Et quand vous passez votre week-end à être obligé de dire où vous en êtes avec votre petit ami, votre chien, votre manager, votre père, moi, je le vois des fois dans des situations totalement improbables, un petit peu à la Mansell, à la Damon Hill aussi un petit peu parfois. Les Anglais, ils sont très pressants quand même sur leur pilote. Alors Schumacher, lui, il avait réussi à se barricader de la presse allemande qui est pas non plus à piquer des hannetons. Hamilton, on a l'impression que cette année, il est presque plus encore en première ligne que l'année dernière. C'est-à-dire que McLaren le protégeait quand même plus ou moins. La Mercedes, ils ont décidé de le laisser tranquille, Lewis. Et du coup, j'ai l'impression qu'il prend presque plus les critiques, encore plus dans le nez. Et franchement, au Canada, il n'était pas bien. C'était un Lewis fermé, de mauvaise humeur, un peu triste parce qu'effectivement, tout le monde dit vous êtes un menteur, alors que Rosberg est pareil.
Mais c'est ça qui est incroyable, parce que c'est quand même
Voilà. C'est pour ça que Schumacher voulait pas être une star. C'est pour ça que Vettel veut pas être une star. C'est que Hamilton, c'est quasiment presque la seule star du entre guillemets, parce qu'il n'est pas non plus, c'est pas forcément le plus connu, mais il est celui qui ressemble le plus à une star, ou en tout cas qui veut être une star. C'est d'ailleurs son problème, c'est que je pense qu'il veut plus être une star qu'un champion du monde de Formule 1, et il le reprend dans le nez. Raikkonen pourrait aussi reprendre ça dans le nez, sauf que Raikkonen, il se fout de tout. C'est quand même un talent assez phénoménal. Donc vous avez un Rosberg qui on ne demande jamais de compte, Raikkonen qui se fout de tout, un Vettel qui est très malin, qui gère la presse, qui se la met dans la poche avec un talent assez déconcertant, Alonso qui est protégé plus ou moins par le mythe Ferrari et des journalistes un peu à la botte de tout ça, et vous avez un Hamilton qui est en première ligne et qui prend droite sur droite.
Après, c'est aussi ce qu'il voulait. parce que on se souvient que beaucoup, enfin une des choses qui avait été beaucoup évoquée au moment de son transfert, c'était aussi le fait de pouvoir gérer sa propre image lui-même, d'avoir moins de dépendance vis-à-vis des sponsors, enfin des sponsors de l'écurie et de la façon de faire de McLaren. Après, moi, encore une fois, je suis vraiment fan du pilote pour le coup, mais il s'expose aussi parce que, comme tu le dis, il essaie de devenir une star et beaucoup de ses déclarations. Alors, je parle pas des déclarations sur la compétition, la F1, le fait qu'il voulait marquer l'histoire, parce que ça, c'est propre à chaque pilote. Enfin, j'espère que chaque pilote a envie de marquer l'histoire de sa discipline, mais c'est tout le reste.
Mais de là à le dire. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui le pensent et qui le veulent, mais de là à le dire et à le répéter, enfin voilà, Hamilton, ça fait quand même des années qu'il tient toujours le même discours, qu'il veut être le plus grand et compagnie. À un moment donné, t'as envie de dire, oui, il y en a d'autres qui le disent pas, qui le pensent, mais qui le font. Tu prends Vettel, Alonso, ils le disent pas, mais voilà, sur la piste, ils essayent de, c'est là la différence. Thibaut, tu faisais la comparaison avec Raikkonen. C'est là la différence entre vouloir être une star et être une star. Kimi Raikkonen, il ne fait rien pour être la star qu'il est aujourd'hui en Formule 1. Là où on a l'impression que Lewis Hamilton, il veut toujours essayer d'être une star.
Oui, c'est clair.
Il y a quelque chose qui fait, voilà,
non mais à la limite,
il devrait pas en fait. Il devrait se contenter d'être stylé.
À la limite, tout veuille, mais c'est moi je fais la différence entre le fait qu'il veuille se tracer un destin en compétition, enfin je veux dire bien à lui, qu'il l'affiche, bien à lui. Enfin dire, moi je suis le premier à reprocher aux sportifs d'avoir toujours un discours assez carré, assez prudent, même quand plus rien peut leur arriver, la prudence tout le temps. Lui au moins il a ce mérite là. Mais c'est un mérite, mais c'est aussi sans doute un défaut, puisqu'il se met une pression telle que sans doute elle a peut-être été aussi à la base de certaines erreurs, de certains échecs. Mais c'est bien de vouloir marquer sa discipline sur le plan sportif, mais après c'est tout l'à côté. On rigole sur le chien, mais c'est aussi prêter le flanc à une certaine critique. Quand on dit qu'après sa carrière en Formule 1, on voudra se tourner vers des activités artistiques, c'est aussi prêter le flanc à la critique. Moi, c'est plutôt sur la côté que j'irais chercher Hamilton, parce que sur le raisonnement sportif, à la limite, il est déjà une star de la discipline. Il n'est pas ce qu'il voudrait être. Il n'est pas une légende, mais il est déjà une star de la discipline. Mais c'est plutôt les à côté qui malheureusement, effectivement, lui créent des problèmes extra-sportifs, parce qu'il a tout le temps à se justifier face à la presse anglaise. C'est ça, moi, que je trouve un peu dommage. Après, c'est aussi pour ça qu'il est apprécié, qu'il est détesté, parce que Hamilton, il représente plus. Que ce qu'il est en piste, quoi. Il a une image qui est extra sportive. Il a une image people, quoi. C'est pour le coup, il a déjà à peu près tous les apparats de la star, du people. Mais là, malheureusement, peut-être ce qui lui manquera, ce qui lui manque le plus, en tout cas, c'est son statut de très grand pilote, de légende de la Formule 1, qui doit toujours conquérir. Et c'est dommage que ces à côté viennent interagir avec le côté sportif, et finalement ça finit par biaiser son
dans
objectif
sens-là,
premier.
Je suis pas sûr que le fait qu'il y ait plus de liberté justement chez Mercedes soit forcément
une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord, c'est là-dessus que je partais, et c'est vrai que c'est-à-dire qu'on avait l'impression en 2012, en tout cas début 2012, qu'il avait retrouvé une certaine stabilité, notamment avec Coton qui était avec lui, enfin voilà, une sorte de
Coton qui n'est plus avec lui, justement.
Et après voilà, de ce côté-là, c'est ce qui me faisait le plus peur quand il a rejoint Mercedes, c'est ce côté je vais plus ou moins gérer ma propre image, quoi, avec la société, la fameuse société. Mais c'était ce côté-là, en moi-même je me disais, ça n'a pas toujours été une réussite, quoi. Donc après, sur le plan sportif, malheureusement, encore une fois, ce week-end c'est pas facile de... Enfin, ce week-end, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, quoi. C'est vrai que malheureusement, c'est la malchance. Mais j'ai envie de dire, c'est une bonne malchance, parce que c'est pas la malchance qui te fait abandonner comme Vettel. C'est la malchance qui te donne la possibilité de te retrouver au fond du trou, parce que sur les quatre crevaisons, il y en a quand même deux qui sont des crevaisons où le pilote repart quand même assez loin de la ligne des stands. Celle de Vergne, elle est plutôt proche.
Aussi, hein. Bah, Hamilton, il part quand même.
Il faut qu'il repasse toute l'ancienne ligne droite des stands.
Ouais, c'est ce que je dis. Il a quand même une grande partie du.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
De toute façon, La crevaison d'Hamilton, elle lui arrive au moment, elle lui arrive, je crois, à l'entrée des stands. C'est-à-dire qu'il crève.
Pour moi, il crève un peu plus loin que Massa.
Oui, oui, il crève. Dans la ligne droite, juste après. Il crève, voilà. Là, Massa, il crève dans le virage et lui, il crève juste dans la ligne droite.
Avant d'arriver.
Parce que Massa, il met aussi un temps indéfini à revenir. Hein. C'est assez impressionnant. Mais c'est une bonne remontée parce qu'il finalement, il se retrouve en queue de peloton. Alors, lui aussi, il a les safety cars. Mais c'est une bonne remontée. À la fin, lui aussi bénéficie de la stratégie pour pouvoir essayer de retrouver de retrouver une bonne place. Il fait jeu égal avec Alonso, il est même plus rapide qu'Alonso, et là c'est pareil, il lui manque un ou deux tours pour certainement monter sur le podium. Mais je veux dire, c'est pas la course chat noir, c'est ça lui, évidemment, si on prend sur le plan des points, il en perd parce qu'il aurait dû en gagner 25 ou 18. Mais sur le plan du mental, sur le plan de la démonstration, c'est quand même aussi une belle démonstration de force d'avoir pu faire tout ça alors que les éléments étaient pas forcément toujours en sa faveur. Voilà, après.
Et puis dans ceux qui ont eu des accidents, des problèmes de pneus, je pense que c'est peut-être bizarre de dire ça, mais celui qui a eu plus de chance, parce que j'ai l'impression que le bord des pneus a quand même résisté.
Oui, il est resté.
C'est lui qui a le moins eu de dégâts sur sa voiture, que ce soit sur le ponton ou sur le fond plat.
Bah, faut dire qu'ils les connaissent bien, les
quand tu vois, quand tu vois l'état de la McLaren de Perez après l'accident, je veux dire, le fond plat, il est complètement bousillé, le ponton, il y a des trous partout. Finalement, dans ce sens-là, c'est peut-être lui qui a eu le moins de dégâts sur sa voiture et donc peut-être le plus de chance.
Passons au classement du SAV. C'est Alonso qui est toujours devant avec 126 points devant Vettel 116, Raikkonen 100, Hamilton 98, Massa 90 et Rosberg 79. Chez les équipes, Ferrari 216. Par contre, c'est très serré puisque Red Bull est à 178, Mercedes 177 et Lotus à 125. Dans l'autre classement, celui de la FIA, Sébastien Vettel est devant avec 132 points, mais Alonso est à 111 points désormais, Kimi Räikkönen 98, Hamilton 89, Weber 87 et Rosberg 82. Chez les constructeurs, Red Bull est devant 219 points devant Mercedes 171, Ferrari 168 et Lotus 124. Avant de passer aux faits marquants, on va passer au drive-thru. On n'a pas mis dans l'heure de gloire de l'invité. Messieurs, est-ce que vous avez des drive-thru pour cette course?
Oui, moi j'ai envie de dire que je vais revenir sur Pirelli, mais en mettant l'accent plus sur voilà, Pirelli et en même temps les écuries qui ont. Si je suis le premier à passer, j'enfonce les portes ouvertes. Hein,
merci.
pour leur responsabilité collective par rapport au désastre, au ridicule des explosions des pneus. Quoi.
Mais vous avez lu le communiqué?
On arrive, qui est sorti cet après-midi.
Enfin, oui, on l'a même évoqué.
Il faut quand même savoir, c'est que moi je l'ai reçu la première version en italien. C'est la première fois que je reçois un communiqué Pirelli, première version en italien. C'est-à-dire quand même que les mecs étaient chauds. c'est un peu comme quand t'es en colère. Ta première langue qui te vient quand t'es en colère, c'est ta langue maternelle. Là, les mecs de chez Pirelli, c'est tous des anglais, mais la première langue qui leur est venue, c'est l'italien.
Dino, t'avais un drive-thru spécifique?
Ouais, moi, ce serait pour Canal+, parce que l'une des raisons qui fait que je suis pas là, c'est que j'ai pas pu voir le week-end complet je suis pas là, mais qu'en fait, je suis un peu là quand même. C'est que j'ai pas pu voir le week-end dans de bonnes conditions et donc, notamment le replay, des qualifications et je trouve quand même assez aberrant qu'on ne puisse pas avoir les qualifications du Grand Prix en replay avant la course. Voilà, je l'ai même mis sur Twitter, on paye mine de rien quand même 40 € par mois, la moindre des choses, c'est de se bouger un petit peu le popotin pour s'assurer que les gens puissent avoir accès en replay au moins le dimanche matin les qualifications du Grand Prix, quoi. Mmh. Ce qui fait que j'ai même pas vu les qualifications, puis une fois que j'ai vu la course, j'ai aucun intérêt à regarder les qualifications.
Moi je vais enchaîner, alors ça sera pas sur Canal mais c'est sur la réalisation, parce que cher réalisateur de la FIA, oui on a compris que la petite amie de Rosberg était mignonne, c'était bien de nous la montrer une fois, c'est toujours sympa, mais au bout de la dixième fois, surtout vu tout ce qui s'est passé pendant le Grand Prix, c'était
peut-être pas obligatoire. À mon avis il aime bien les blondes, le réalisateur de la FM, parce qu'au Canada je pense qu'on a beaucoup
vu la copine blondes,
de
ce type.
On voit beaucoup de John Button aussi. C'est quand même une belle blonde.
Toi, femme.
Alors moi, ce serait pour le public. Ouais, non, mais là, je m'attaque toujours. Je m'attaque toujours à des moulins, mais comment dire. Mais c'est pas tellement. Enfin, c'est pas tellement le.
Hein. C'est le fair play britannique.
Oui, mais à la limite, c'est pas tellement le public britannique. À vrai dire, ce serait plutôt le public canadien pour le coup. Mais je vais quand même embrigader le public britannique parce que on l'entend très très peu le public en Formule 1. Mais il y a des fois, c'est quand même assez impressionnant parce que quand à la seconde près où on a bien compris que la boîte de vitesse de Vettel ne repartirait pas de toute façon, il y a eu un hurrah mais immense et je me suis dit on l'a entendu, donc je me suis dit ça devait être quand même quelque chose quoi, parce que pour entendre quelque chose dans F1 en général c'est faut y aller quoi, au niveau du public. Et Thibaut donc nous disait qu'on commence l'émission que la salle de presse avait elle-même applaudi au moment où Vettel avait eu ce problème. Bon voilà.
Bon, on l'a tous fait devant la télé.
Bah non, je peux comprendre. À la limite, je peux comprendre la réaction du public britannique parce que je pense pas que ce soit très différent ailleurs. On a eu des échanges à ce propos-là avec quelques auditeurs sur Twitter. Effectivement. Mais quand tu lis ça, ce qui s'est passé au Canada où il s'est fait huer en finissant en tête, ce qui est quand même assez rare, quoi. Même Vettel. Enfin, voilà. Je sais pas. Je trouve ça dommage. Parce que, alors évidemment, le public, on est bien d'accord, ça doit pas être des béni oui oui qui sont sans âme, sans personnalité, qui doivent acclamer à tout rompre ceux qui finissent premiers, qui doivent pleurer quand il y a des abandons. Mais je sais pas, un peu de retenue, je suis pas vraiment particulièrement fan de Vettel, mais enfin, s'il y a bien quelque chose qui mérite, c'est le respect pour ce qu'il fait et le niveau auquel il le fait. Je trouve ça dommage. Après, j'ai bien conscience de me battre contre quelque chose qui malheureusement nous dépasse tous et puis sans doute n'est pas forcément fait avec des intentions malsaines derrière. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage que la seule fois où on entende le public pendant un Grand Prix de Formule 1, ce soit au moment où le leader et triple champion du monde en titre abandonne sur un problème mécanique. Quoi.
Et alors, Thibaut, voilà. Est-ce que toi aussi il y a quelque chose de spécifique qui t'a énervé, qui t'a agacé, voilà, ce qu'on appelle un dry food dans notre jargon du SAV, un carton rouge.
Oui, moi je ferais bien l'arroseur arrosé, je mettrais bien un dry through à ceux qui d'habitude le mettent, c'est-à-dire les commissaires. j'avoue que dimanche soir on n'a pas bien compris, on nous amène le fameux communiqué comme quoi Nico Rosberg est convoqué devant les commissaires pour ne pas avoir assez levé de pied sous le drapeau jaune. On se dit bon,
c'est une pénalité de 5 secondes.
On se dit bon, bah voilà, ça va être assez clair quoi. Soit il l'a fait, soit il l'a pas fait. Puis finalement, on se retrouve avec un communiqué où on nous dit qu'il l'a fait et où il a rien. J'avoue que ces réprimandes commencent un petit peu à m'énerver parce que je sais ce que c'est qu'un carton jaune. Vous en prenez un deuxième, c'est un rouge. Les réprimandes, j'ai l'impression d'entendre maintenant des réprimandes pour tout le monde et il se passe rien derrière. Bon, voilà, soit il a pas respecté le drapeau jaune et on lui met un truc, soit il l'a respecté et on lui met rien du tout. Mais j'avoue que
techniquement dans le règlement, les réprimandes, c'est au bout de 3 réprimandes, c'est 10 places sur la grille. Enfin, ça s'est produit qu'une fois, je crois.
Ouais,
et au bout de 3 blagues,
pas très très précis quand même, parce que j'ai l'impression que, alors on me dirait Mercedes, ils ont pris une réprimande. Alors est-ce qu'elle compte pour Rosberg ou elle compte pas pour Rosberg? Maintenant, si derrière on met une réprimande, il dit oui, non, mais celle-là, cette fois, elle est pour mon cuisinier, elle n'est pas vraiment pour moi. On peut avoir 19 réprimandes et il se passera rien. Donc bon, c'est la façon dont fonctionne la FIA. Il faut vraiment revenir à des choses plus simples. C'est tout est alambiqué, c'est pas possible. Et on crée des tribunaux, un tribunal international qui met une journée et demie à délibérer et qui te donne une réprimande. On a des commissaires qui appellent un pilote et oui, il a pas du tout respecté le drapeau jaune et puis il y a une réprimande. C'est vraiment, ils aiment bien faire accoucher des souris de montagne.
Et encore, autant sur la pénalité infligée à Mercedes, on peut se dire bon, c'est une réprimande parce que la FIA met en partie ses torts en ne pénalisant pas durement Mercedes. Autant là, la FIA est même pas partie prenante quoi. C'est soit il a fait quelque chose, soit il l'a pas fait. S'il l'a fait, il est pénalisé. Il l'a pas fait, il est pas pénalisé. Et là, on dit il l'a fait, mais
oui, mais c'est ça, c'est dans la justice civile ou pénale, c'est pas au bon cher Thibault Larue, vous avez volé ça, c'est pas bien. Voilà, c'est une sorte de réprimande morale, on a l'impression, genre c'est pas bien, faut pas le refaire. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est toujours un petit peu énervant pour des journalistes quand on est en plein bouclage de nos papiers, de machin truc, puis que la FIA nous sorte des trucs avec au final rien au bout, quoi. C'est toujours un petit peu bizarre.
On va passer aux faits marquants de la course. On vous rappelle le sondage du dernier Grand Prix, donc comme d'habitude, qui était selon vous le fait marquant du Grand Prix du Canada 2013. Encore une fois, un merci à tous ceux qui ont voté, de même que merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Est arrivé troisième, 24,14%, Di Resta forcé par le règlement de changer ses pneus. À la deuxième place, 33%, Alonso, le passe-muraille des champions. Et en premier, 42,53%, Sébastien Vettel triomphe sous les huées du public. Je crois que Di Resta, c'était moi qui l'avais mis. Tu te souviens, Dino, ou pas? Est-ce que tu te souviens ce que toi, tu avais mis?
Ouais, le passe-muraille, là, c'est...
Je me souviens même pas de ce que tu viens de dire, alors, tu vois.
Ah, il fallait écouter, excusez-moi.
Ah, voilà, tu vois, on est bien d'accord, Thibaut. Il y a une pause.
Moi, quand Shinji parle, je... Fab blocage.
Non, mais ça va pas couper, j'espère, quand même, quand j'ai parlé.
Non,
mais...
On a fait...
Vous allez finir par le démolir psychologiquement.
Il faut savoir, je te dis, il faut qu'on t'explique. Tu sais, pour nous, ce moment-là, c'est vraiment le moment juste utile pour les auditeurs.
Mais oui.
Nous, c'est un peu le moment où on se dit, bon, qu'est-ce que... C'est un peu comme parfois, quand tu fais l'amour, voilà, tu dis, bon, demain, qu'est-ce que je mange? Voilà, c'est un peu ce moment-là. Voilà,
c'est demain... qu'à toi que ça arrive, ce genre de truc. Je te le dis tout de suite.
Puisque c'est comme ça, je vais prendre le premier choix cette semaine. Hein, ça nous apprendra. Et je vais mettre à deux doigts de la catastrophe pneumatique.
Oh,
parce qu'on est comme...
Alors,
je veux gagner.
Excuse-moi, mais tu nous as habitués à plus de grandeur.
Voilà. Pour ton Vettel, ou si on soit, c'est un feu marquant de course. Je suis désolé pour Fab. Hein.
Non, vas-y, allez-y, hein. Je trouve un truc.
Voilà, ouais.
Enfin, donc Ben, tu veux mettre l'abandon de Vettel?
Ouais, tu peux mettre l'abandon de Vettel qui relance un petit peu le championnat.
Non, c'est trop long, ça.
Bon, l'abandon de Vettel. Moi, je suis toujours d'accord avec les
voilà, parents. C'est bien.
Dino, non. Profites-en, tu es là.
Non, moi.
Si tu veux mettre un fait marquant.
Non, moi, je viens juste squatter, donc du coup, moi, j'aurais mis la présence de Thibaut, mais bon.
Ah, mais oui.
Monsieur est trop bon, monsieur est trop bon.
Et sinon, toi, Thibaut, ouais. Si tu devais retenir un fait marquant de cette course.
Qui n'a pas déjà été cité.
Oui. C'est ça le plus dur.
Ah oui, il a pas été cité, c'est un petit peu compliqué effectivement. Je suis obligé de reciter Vettel. Il est tellement dominant que effectivement, c'est une petite bouffée d'oxygène qui est quand même un petit peu limitée par le fait que c'est ni le deuxième ni le troisième qui en ont le plus profité quand même. Vettel a toujours aussi un petit peu quand même ce bol, cet enjeu dessus de lui, parce que le jour où il abandonne, c'est quand même Rosberg et Weber qui gagnent et qui font deuxième. Or, dans le classement, c'est quand même pas non plus... C'est toujours ce qui est étonnant avec ce Vettel et qui me fait dire qu'il ira encore plus loin que là où il est. C'est que les quelques moments où il a quand même pas mal de chance, quand même, mine de rien. On va pas tous revenir sur Abu Dhabi l'année dernière ou le Brésil. Il a un talent phénoménal. Il est d'une intelligence rare. Il a quand même pas mal de bol. Et les jours où il en a pas, c'est jamais vraiment ceux qui devraient en profiter qui en profitent. Donc effectivement, ça relance un peu le championnat, mais en même temps, c'est pas non plus... c'est beaucoup d'à-coudre quand même. Donc il faudrait trouver un titre, genre le malchanceux-chanceux, un truc comme ça, quoi.
On peut mettre Vettel le malchanceux-chanceux.
Ah bon, je vois que ça soulève pas les foules, mais bon, j'ai trouvé que ça...
Hein. Oh non, mais d'habitude non plus.
Ne t'inquiète
hein.
pas.
Mais il est pas mal. C'est-à-dire, quand on dit le passe-muraille, déjà, enfin, je sais pas. Mais...
Non, bah, sinon on peut mettre les retrouvailles Weber Grosjean. Ils se sont fait un petit bisou. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas un petit peu caressés. Donc, on pourrait.
Très élégant, d'ailleurs, Weber. Oui, je crois que c'était Grosjean.
Ouais, il l'a pas insulté pour une fois. Ça change un peu.
Ça change,
non, hein. Non, il y a plein d'autres. Il y a McLaren complètement. Complètement à la ramasse.
Ouais, attendez, je me suis pas exprimé.
Ouais.
Du calme, du calme, tout le monde.
Deux grands prix de suite hors des points, ça doit pas leur être arrivé souvent, ça, chez McLaren.
Mais non, c'est pas arrivé depuis 2004.
Et donc toi, Fab?
Alors moi, face à la bassesse de Shinji, qui vraiment, non mais, écoute, les gens savent à quoi s'en tenir avec toi. Parce que là, franchement...
Je fais dans l'efficacité.
Oui, tu fais un putsch, et après, tu choisis le truc le plus évident. Bah, moi, j'ai envie d'invoquer...
J'essaie de gagner.
Moi, j'ai envie d'invoquer les fanbases. j'ai envie de saluer les courses somptueuses d'Alonso, de Raikkonen et d'Hamilton. Et je voudrais vraiment que les fans se réveillent et privilégient cet aspect sportif à l'aspect extra sportif.
Tu en appelles aux fanbase d'internet?
Oui.
De manière
totalement honteuse.
Hein, de toute façon, tu mets un truc avec Alonso, Raikkonen et Hamilton dans la même.
Mais j'ai envie de voir, en fait. Bah, j'ai déjà envie de voir si ça peut rivaliser.
Voilà. C'est-à-dire qu'en général, un de ces noms-là, tout seul, c'est déjà pas mal. Mais alors, les trois ensemble.
Mais justement, c'est trop évident. Je pense que l'auditeur et le lecteur fan F1 va se dire, il y a un piège.
Oh.
On essaye de m'arnaquer. Oh. Ça fait un peu promesse de campagne. Vous payerez pas d'impôts, vous aurez plus de trucs et compagnie. Et à la... On devrait le sentir. Ça n'empêche pas les gens de voter pour, tu me diras. À la limite, peut-être. On sait jamais.
Et donc, cette semaine, pour le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne, vous aurez le choix entre Vettel, le malchanceux, à deux doigts de la catastrophe pneumatique, les courses somptueuses d'Hamilton, Alonso et Raikkonen, ou les retrouvailles Weber-Grosjean. Tu ne gagneras pas, femme, tu verras. Les gens ne sont pas dupes. Passons maintenant au concours. Le concours top à position. Et cette semaine, vous savez, il y a un magnifique cadeau quand même. Il y a quand même ce parapluie Williams F1. Parce que non, on ne joue pas du tout avec les clichés. L'Angleterre, un parapluie. Non. La question qu'on vous avait posée lors du dernier Grand Prix, oulala, qu'est-ce qu'elle était dure. Mais tu sais que j'ai eu de mauvaises réponses qui l'a corrigée quand même. Hein. Puisque la question, c'était quand même qui avait été le dauphin de Jacques Villeneuve l'année de son sacre en 97. Oh. C'était dur. Hein. En plus, je l'ai dit, hein. Attention, il y a peut-être un piège. Hein. Bien évidemment, il ne fallait pas répondre Michael Schumacher, puisque grâce à son magnifique geste à Rerez, il a été disqualifié du championnat, même s'il a gardé ses victoires. Et c'est donc Heinz Rahlfelsen qui a fini deuxième du championnat. Ah non.
Ouais. Tu sais, les trois mecs qui étaient le même temps à Rerez.
Oui, c'est vrai. Et cette semaine, messieurs, on a 5 bonnes réponses. C'est bien, Dino, tu vois, finalement, tu vois.
Ah, moi, je suis au repos.
Même pour ça, t'es au repos, tu choisis pas.
Moi, j'ai dit, je passe juste 30 minutes.
Même Thibaut, tu prends un ton avis. Première question. Donc, Silverstone, actuellement circuit mythique de la F1, mais par le passé, histoire est connue, à l'origine, Silverstone, c'était une base aérienne de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, une seule unité, puisque ça n'a pas duré très longtemps finalement, une seule unité était basée à Silverstone. Quelle était cette unité et quel était son rôle?
Les
enchères, ils cherchent les questions.
Ou de l'éphéméride. Oui.
Ou alors la question qui intéresse pas du tout.
Non, il y a ça pire. Aussi. Je ne donne pas mon avis. C'est vous choisissez. Combien y a-t-il de types de stands de restauration différents au virage Beckett sur le circuit de Silverstone?
Non, mais c'est quoi, c'est des stands?
C'est trouvable. C'est apparemment, c'est trouvable. Et.
Ouais, mais alors si c'est trouvable, c'est trop facilement trouvable.
Oui, voilà. Alors j'ai dit que c'était trouvable, pas que c'était facilement trouvable.
Ouais, mais enfin si c'est trouvable, ce genre de truc, c'est que ça doit être facilement trouvable.
Et parmi ces stands. Combien ne sont pas anglais? Ils sont fous. Ils envoient des trucs, mais ils sont fous. Troisième question.
Combien y a-t-il de graphiques dans le bac à la sortie du virage 4?
Non,
c'est
non,
trouvable.
Non, oula. Attention. Citez les deux pilotes japonais de F1 dont le nom figure dans l'univers de Star Trek. Je sais pas ce qui est passé dans la tête des gens cette semaine.
Oui, mais si c'est pourquoi
ben, moi, je voulais rappeler à nos auditeurs, avant tout, que la drogue, c'est mal. Même à petite dose, c'est mal. Ça commence comme
c'est
ça,
mal.
Et vous finissez par poser des questions dans le SAV. C'est très mauvais.
Quatrième question. Sébastien Vettel a permis, malgré son abandon à la nationalité allemande, pilote allemand en général, de passer le cap des 8100 unités. Mais de quelles données on parle? C'est 8100 quoi?
Je reviens sur cette F1 deux minutes.
Et enfin, cinquième question. Cela fait maintenant 2 Grands Prix consécutifs que McLaren est hors des points. Quels sont les 2 derniers précédents Grands Prix consécutifs et l'année où McLaren a également été hors des points?
Ça, c'est dans l'IMAG F1 de Sport Auto, ça. Donc, vous pouvez aller le télécharger, c'est gratuit. En
plus. Et très bien fait, d'ailleurs.
Merci.
Je dis ça parce que t'es là. Dans 2 minutes, je dirais pas ça.
Oui, je dirais pareil sur votre SAV demain matin.
Arrête. Allez, arrête. Non, mais sérieusement, il est très bien.
Vous êtes prêt à aller dans le paddock, hein? Vous m'avez l'air bien. Non, c'est parfait. Vous avez tout dans la valise déjà prêt. Préparez-vous.
Donc, messieurs, quelle question choisissez-vous? Il y a un parapluie qui est en jeu. Attention.
Je ne dis rien.
Ouais,
quand même, je veille.
sur Vettel.
Ouais. Franchement,
c'est pas que ce soit facile, quoi, tu vois, ouais.
Bah c'est ouais, mais en même temps, j'ai peur que c'est sur Vettel.
En même temps, ils ont qu'une semaine. Hein.
Et c'est quoi le cadeau, qui a gagné
Vettel.
Pour la semaine prochaine, alors c'est peut-être un truc qui sera collector dans très peu de temps.
Ah non,
c'est un t-shirt Hülkenberg.
Sincèrement, c'est un super beau t-shirt. Et on a enfin le prix, donc c'est bien.
Parce que vous savez que quand on a fait la liste des cadeaux, on n'avait pas le prix.
Donc on a un peu estimé.
Mais qu'est-ce qu'ils ont aussi à foutre là, à sortir leur truc 3 mois après le début de la saison?
Bah, c'est pour être sûr que Hülkenberg.
Ouais, alors j'ai trouvé la stat. Et
comme comme vous direz d'ailleurs. En prévoyant.
Bah sinon, c'est sur Star Trek.
J'ai trouvé la stat et c'est facile.
Sympa ça, parce que le truc avec les cabanons.
Mais Star Trek, c'est drôle le coup de Star Trek. Ça.
Ouais, à la limite. Les autres avant, c'est dur quoi.
J'ai peur que ce soit capillotracté quand même, hein. Genre un mauvais jeu de mots ou un truc qui ressemble à Sato mais qui est pas Sato.
Enfin, ah non, c'est vraiment les noms, voilà, sont.
Bon, en même temps, il n'y a pas eu 5
ans de pilotes
japonais dans la Formule 1 non plus, donc ça va rapidement.
Oui, mais en plus, oui.
Déjà, par le livreur de sushi, je vois pas bien où il y en a, mais bon.
Ouais, ça me paraît bien ça.
Ouais, je rejoins.
Eh bien, c'est non, Steve. En fait, Steve qui encore une fois gagne. Ça, l'an prochain, pensez à mettre une limite au nombre de gains.
Note de service.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que ce mec-là, vu tout ce qu'il est en train de gagner, il va non seulement gagner tous les cadeaux de l'année, mais la seule fois où il a perdu, où il aura donc gagné un petit ticket pour le tirage au sort pour gagner le casque, la réplique du casque d'Alain Prost de 93, la seule fois où il a participé, son petit bout de papier va lui permettre de gagner le casque aussi. Parce que rappelons-le, hein, quand vous perdez, vous avez encore une chance de gagner, mais en fin de saison.
Alors l'unité qui était basée à Silverstone, c'est la 17 OTU pour Operational Training Unit, qui était une unité en fait, d'entraînement au bombardier.
Shinji, on t'entend plus.
Oui.
Allô Shinji.
Oui.
Shinji.
Oui.
Ah non, c'est bon. Non, c'est juste que c'était chiant. Excuse-nous.
C'est bon.
Et nous, on
tu m'obliges à passer un quart d'heure sur un truc chiant, alors que oui, si mais tu c'est plus drôle. Pas, ça prendrait 10 secondes. Donc ça, c'était la question de alors, Rémi. Alexane nous avait posé la question sur donc les différents types de stands de restauration à Beckett.
Ça va, je comprends mieux.
Qui fait de faire des.
Et parmi les 7, il y a un stand de nourriture indienne. Et puisque quitte à... Voilà, c'est étranger, mais on reste quand même dans le Commonwealth, hein. Faut pas déconner. Oui, non, recommence pas. Ne recommence pas.
Allez, attention Thibault, le prochain c'est pour toi.
Je vous entends plus là.
Les 8100 unités des pilotes allemands, c'est le nombre de tours en tête.
Tours en tête, oui.
Ah, c'était ça. Exactement, 8107 tours.
Ah, j'ai pas deviné.
Oui, tout simplement. Et donc Jérémy avait posé la question sur donc les 2 grands prix consécutifs hors des points. Et donc Thibaut, toi-même tu l'avais dit, c'était quand la dernière fois?
Il se rappelle même pas de ce qu'il écrit dans les magasins.
Alors
c'est pas sérieux ça.
Parce que pour être tout à fait honnête, Jérémy il a mis 2009. Et en effet, en 2009, il y a un énorme trou entre Espagne et Grande-Bretagne.
Ouais, ça me tend sur 2009, ils n'étaient pas exceptionnels non plus, c'est vrai.
McLaren. Ah, souviens-toi le début de 2009, McLaren.
Thibaut, là, il est en train d'avoir des souhaits, là.
Non, mais je vous crois, il n'y a pas de. Je fais confiance à votre professionnalisme.
Bon, les gars, on a fait dans la cœur. On a mis 2004, c'est 2009.
Non, mais c'est peut-être moi qui ne sais pas lire aussi. Hein.
Donc, on vous rappelle, hein, si vous souhaitez gagner un magnifique t-shirt Sauber Hülkenberg, il suffit donc de nous envoyer la réponse à la question accompagnée d'une nouvelle question, avec sa propre réponse, bien évidemment. L'adresse est concours@savf1.fr. Je vous rappelle la question. Il y a 2 noms parmi les pilotes japonais qui ont participé à la F1. 2 noms sont communs avec l'univers de Star Trek. Hein
Avec l'univers. Ah !
Avec l'univers.
Ah, c'est plus compliqué que prévu, en fait, comme question. Il y a eu un pilote japonais qui s'appelait Enterprise.
C'est le truc.
Genre Takeshi Enterprise.
Takanobu. Citer les 2 pilotes japonais de F1 dont le nom figure dans l'univers de Star Trek.
Spock.
La semaine prochaine, ce sera encore un SAV d'après Grand Prix, mais après, il y aura un mag, et qui dit mag dit répondeur. On vous rappelle, hein, si vous voulez poser une question au répondeur, deux possibilités, soit le module audio sur, sur le site web savf1.fr, ou bien l'adresse mail répondeur@savf1.fr.
Je ne sais pas si vous avez dit à Thibaut qu'il avait des questions pour lui sur le répondeur.
Oui, mais on allait le faire après, mais on peut le faire maintenant.
Je fais des transitions, ah, c'est des Non, parce que, en fait, je suis venu pour ça. Tout à l'heure, quand je suis rentré chez moi, j'ai appuyé sur répondeur. Il y avait des questions. Il y avait une question.
Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en profiter, puisqu'il y a Thibaut qui est dans l'émission. Comme ça, il aura le message. Mais on fera ça quand tu voudras, Chili.
Non, mais là, on vient de parler du répondeur, donc on peut le faire.
D'accord.
Oui.
Ah, voilà. Thibaut, tu te souviens peut-être qu'il y a quelques semaines, quelques mois même, quand on avait reçu Antoine Arlot, on t'avait demandé de lui poser une question, qui était d'ailleurs, je crois, c'était.
Avec qui voudrais-tu commenter, oui. Avec quel pilote actuel aimerais-tu commenter?
Je pense qu'il avait cité Rosberg, parce qu'il est francophone. Il avait parlé de Grosjean aussi.
Bon, c'est un fan de Grosjean.
Mais, il n'est pas parti tout seul. Enfin, il nous a laissé un petit souvenir, rien que pour toi. Tu vas voir, c'est un petit souvenir sympathique. Il est juste curieux, donc il nous a enregistré une question à ton adresse à l'époque. On va te la faire écouter. Alors attention, on va sortir les gros outils technologiques.
Thibaut Larue, c'est sur Romain Grosjean, parce que Romain, il a commencé donc début d'année dernière avec Lotus, mais il avait été champion de GP2 en Belgique l'année d'avant, donc en 2011. Et à cette époque, il y avait Heidfeld et Senna, qui étaient pilotes chez Lotus, mais ça marchait pas du tout. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il sait pourquoi Lotus n'a pas décidé de mettre Romain, qui est champion de GP2, un peu avant, quoi? Est-ce qu'il a posé la question à Boulier, en Inde, par exemple, en Inde ou en Corée, d'ailleurs, plutôt? Est-ce qu'il lui a posé la question? Parce que, moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis Grosjean avant, ou moins faire les tests avant. Il l'a mis très tard. Voilà. Question.
On va pas faire semblant de vraiment répondre sérieusement, j'imagine. Hein, l'idée, c'est d'expliquer ce qu'il y a derrière ça. On s'est retrouvé à un point presse, Éric Boulier avec Antoine et moi-même et d'autres médias français. Et en Inde, je me lance et je demande à Éric, pourquoi vous attendez, quoi, globalement. Et Éric nous envoie assez sèchement boulé, en tout cas moi. Oui, vous, les journalistes, blablabla, vous êtes déjà contents, machin truc, blablabla. Enfin bon, bref, il m'envoie bouler, quoi. Donc depuis, c'est régulièrement une private joke entre Antoine et moi sur parfois la rudesse de Eric, qui est quelqu'un de très sympathique par ailleurs, avec qui je m'entends très bien, mais qui parfois est un petit peu en bon manceau, un petit peu brut de décoffrage quand certaines questions lui plaisent pas. Je considère que c'était plutôt une bonne question, et le fait qu'il soit énervé m'a confirmé le fait que c'était plutôt une bonne question qui l'avait un petit peu piqué au vif, voilà. Donc, expliquer à nos amis auditeurs que c'est un peu une private joke qu'on se balance assez régulièrement quand on se croise avec Antoine avant les points presse pour savoir.
Et qui on a une autre petite question. Alors là, elle est pas audio, elle est écrite. Je lui ai demandé hier s'il avait une petite question pour toi, et il en avait une. C'est ton acolyte, c'est ton partenaire de double, enfin plutôt de simple, puisque généralement vous êtes chacun de votre côté du filet. C'est Julien Febro qui te pose cette question. Thibaut, est-ce qu'un jour tu seras d'accord avec moi? Donc, est-ce qu'un jour tu seras d'accord avec Julien Febro?
Eh ben, j'ai un scoop pour vous. Chaque émission, j'y vais en me disant, il va falloir à un moment donné être d'accord avec lui, et j'y arrive toujours. Mais je ne désespère pas qu'un jour, où il fasse beau, on soit d'accord sur l'état de la météo.
Pas vraiment bleu. Je suis pas d'accord avec toi, Julien. Je dirais pas bleu clair. Il est un peu azur, tu vois. Toi, tu dis bleu clair, moi, je dirais azur. C'est une question de goût, hein. Ça se respecte.
À dire qu'il faut un petit peu aussi de mauvaise foi et d'humour. Donc, bon, c'est vrai que parfois, on s'associe un petit peu à pas forcément être d'accord, ce qui n'empêche pas qu'il y a de nombreux désaccords aussi, mais voilà, la F1 c'est aussi ça, on vit tous les choses différemment, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, voilà, ça n'empêche pas que je le respecte.
Mais c'est vrai que pour les spécialistes F1, c'est quelque chose qui est assez appréciable dans l'émission, on retrouve un petit peu, nous, ce qui nous manquait, et ce qui explique qu'on a fait le SAV de la F1, on retrouve un peu cette ambiance, cette atmosphère, et c'est vrai que Julien et toi, vous y participez par votre relation, on voit bien aussi que c'est un jeu et que vous êtes un peu taquin les uns envers les autres. Voilà, il y a une bonne ambiance, et c'est un vrai plaisir de regarder les spécialistes F1.
C'est gentil, mais après, faut pas non plus exagérer, on se force pas non plus, hein, c'est Voilà, sur Rosberg, il trouvait qu'il avait un petit peu relativisé sa victoire à Monaco, qu'il avait un petit peu relativisé ce que Bottas a fait en qualif. Voilà, on n'a pas la même sensibilité sur certains trucs. Moi, j'y vais avec mon sentiment personnel. Je me cache pas, je mens pas. Parfois, je suis un petit peu nerveux. Je fais même peur à ma mère qui ne me reconnaît pas et qui a deux doigts de me revendre. Mais bon, voilà, effectivement, je pense que le concept de cette émission, c'est que je pense que la F1 manque beaucoup d'humour. Et cette émission a cet intérêt d'amener un petit peu d'humour, d'avis tranché. Et puis voilà, ça reste qu'un sport. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme.
Si vous souhaitez participer au SAV d'après-course, n'oubliez pas,
nous avons normalement un invité. Bon, vous pouvez quand même toujours postuler, on ne sait jamais.
Il suffirait qu'il aille devant lui en pneu Pirelli.
Voilà, on ne sait jamais. Mais non, il y a de la place normalement à partir du Grand Prix de Hongrie et jusqu'à la fin de saison.
Donc on vous rappelle la règle, hein, c'est premier arrivé, premier servi. Sauf que, bien évidemment, si vous êtes déjà passé et qu'il y a un nouveau
il se trouve que Thibaut avait vraiment envie de participer au SAV. Et voilà, donc on a dû virer quelqu'un que t'es déjà venu. On lui a dit, écoute, vraiment, c'est parce qu'il insiste. Tu vois, Thibaut, il veut vraiment venir. On voulait bien que tu viennes, mais voilà, Thibaut veut venir. Il insiste. Il est même limite pesant dans ses tweets et tout. Donc, bon.
Alors, le prochain Grand Prix, c'est dès ce week-end, en Allemagne, au Nürburgring.
Vous mettez cette petite toile de... Oh, merde. Il va pleuvoir.
Donc, comme d'habitude, petit tour de table sur vos pronostics pour le Grand Prix. Non, ça va, Mercedes, ça se limite à deux.
Un des 22 pilotes, pour être un peu plus précis.
Ouais, c'est vrai qu'après, allez, moi je vais mettre Hamilton aussi.
Hamilton.
Il mangera de Rosberg qui gagne sur son terrain, il va gagner sur le terrain de Rosberg.
Mon pronostic, ça serait Vettel chez lui.
Vettel, moi aussi, je dirais bien, ouais, Vettel, pourquoi pas. Et toi, Thibaut, est-ce que tu as déjà des idées, des pronostics sur qui pourrait gagner ce week-end?
Oui, effectivement, Vettel à domicile, ça, c'est un des derniers Grands Prix qui lui manque. Bon, voilà, c'est la météo qui décidera de beaucoup de choses. Si la météo s'en mêlait, genre un petit peu de pluie, je pense qu'Alonso devra tirer son épingle du jeu. Si jamais, comme les conditions météo sont plutôt annoncées assez clémentes, quand même, surtout samedi et dimanche, je verrais bien un petit Vettel remettre les pendules à l'heure.
On arrive à la fin de l'émission. Vous voyez, ça arrive.
Après une longue attente.
On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, mais c'est aussi sur Facebook et sur Twitter via le hashtag SAVF1. Vous pouvez aussi trouver nos différents comptes Twitter sur la page d'accueil.
On peut encourager aussi les gens à suivre sur Twitter. Thibaut, c'est FrenchF1, enfin, @FrenchF1.
Ah oui. On peut plus que le conseiller, c'est vraiment très très agréable.
N'en fais pas trop,
sur Twitter, c'est vraiment très très intéressant.
Non, n'en fais pas trop.
Mais non, mais c'est vrai. On vous rappelle comme d'habitude que l'F1 sur Internet, c'est
mais
sur...
c'est aussi dans l'image F1.
Panf1.com.
Oui.
La famille.
Parce que le SAV de l'F1, c'est...
famille.
C'est bien. Vous êtes bien cette semaine, ça va. Hein. Thibaut, merci de nous avoir accompagnés pendant cette soirée. En plus, après un Grand Prix quand même pas banal. Alors Thibaut, faut rappeler, donc tu es sur Sport Auto, le magazine. Il y a aussi le site Sport Auto où il y a une partie blog. D'ailleurs, tu t'en as parlé pendant l'émission. Tu as laissé, par exemple, aujourd'hui même un article. Il y a le Twitter. Il y a les spécialistes F1.
Tout à fait.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu prépares des livres? Est-ce que tu... Vas-y,
est-ce que tu fais les
c'est ton moment, c'est ton moment auto-promo.
Les mariages?
Non, pour l'instant, je m'arrête à la Formule 1. Pour l'instant, on verra un petit peu plus tard, mais pour le moment... Sport Auto, effectivement, les blogs, les Twitter, les Facebook, enfin, tout ce qui est avec, quoi.
Et on n'y dérogera pas, même si ça ne sera pas Dino qui s'en occupera cette semaine, mais ça ne devrait pas être
beaucoup plus compréhensible
que d'habitude.
Ah, c'est un peu ça, d'habitude. Un
hein, on va se quitter sur une citation, un proverbe, allez savoir, de toute façon on n'y comprend jamais rien.
Oh, des fois, il y a des petites subtilités.
Alors, on se comprend entre
oh, bon, vous n'y comprendrez peut-être pas grand-chose non plus. Il ne fait pas quand il peut, ne le fait pas quand il veut.
Ah, j'ai déjà de comprendre ce que ça fait aux auditeurs et en fait je m'excuse.
Ah t'as vu
je,
hein.
Après 2 ans quasiment de souffrance, je dois faire mon mea culpa, je m'excuse. Voilà, je suis navré, je m'excuse pour tous les gens dont j'ai brisé la vie peut-être, dont j'ai voilà, j'ai été le camion sur cette putain de route quoi. Enfin voilà, je suis désolé.